parler, c'est déjà avancé.
Bonjour Vanessa.
La nuit, la parole est libre.
C'est un taureau, c'est plus un veau.
Un secret partagé est toujours plus facile à porter.
Faites-vous du bien, détendez-vous.
22h minuit, confidence, l'émission sans tabou.
Il y a certaines vérités qu'il faut dire.
Avec Vanessa sur Beurre FM.
Ben bravo. Bravo Giovanni, c'est le travail de Giovanni. Voilà, le nouveau générique, il m'a fait la surprise. Ben écoute, bravo.
Merci, c'est gentil.
Ah oui, beau montage, hein, vraiment.
On occupe le temps.
Bah écoute, j'ai une belle surprise, quelle belle occupation. En tout cas, c'est une surprise très agréable.
Ça nous fait préparer un peu notre oui. best-of de fin d'année.
Et oui, mais c'est très bien fait, vraiment. Hein. Non, je suis très satisfaite, bravo. Hein.
Ça fait plaisir.
Magnifique.
Comment on va ?
Merci Giovanni.
Tu vas bien ?
Bah écoute, je vais bien et toi ?
Comme un vendredi ?
Comme un vendredi, ça y est, c'est week-end. C'est week-end.
Eh oui, ça y est.
Ben on y va.
Repos.
On est prêt.
Enfin.
Exactement.
Et avant.
Avant, il y a confidence. Allez, on y va. Sérieux, hein. Allez, tout de suite, vous appelez au 01 53 48 3000. D'accord. C'est pas encore le week-end. Hein. Tout à l'heure, à partir de minuit. Bon, ben écoutez, c'est clair-obscur. Hein. Pas d'appel. Pas normal, ça. Allez, réveillez-vous, chers amis. Je vous ai concocté un sujet, j'espère, vous donnera l'envie, en tous les cas, de venir intervenir à l'antenne, de nous raconter un petit peu ce que... Voilà, vous allez comprendre. Hein. Ah, ça y est, ça appelle. 01 53 48 3000. Tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement. L'Aïdjibukoum, Inch'Allah, ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous. Une pensée également aux personnes incarcérées, ainsi qu'à vos familles. Et on n'oublie pas, bien entendu, les courageuses et les courageux du soir. Voilà. 01 53 48 3000. Alors, ce soir, on va parler. Bon, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez parler d'autre chose, hein, vous inquiétez pas. D'accord ? On est preneurs. Sinon, je voulais vous proposer. Bah, écoutez, l'actualité oblige. Faire un petit bilan de tout ça. Voilà, vous allez comprendre. Crise climatique, Covid, guerre qui se pointe. Égale, anxiété, voilà, j'ai mis ça. Fragilisé par la pandémie et la crise climatique, la santé mentale est une nouvelle fois mise à rude épreuve par la guerre en Ukraine. Alors que l'OMS note une augmentation, écoutez bien, de 25% quand même. Hein. C'est énorme, vous pouvez pas vous imaginer comme c'est énorme. 25% voilà, de l'anxiété et de la dépression dans le monde. Comment peut-on préserver sa santé mentale en ces jours, cette période un petit peu particulière, après 2 ans bien sûr de stress lié à cette pandémie, l'arrivée de la guerre aux portes de l'Europe, eh bien tout ça apporte son nouveau lot de traumatismes. Et oui, les médecins, beaucoup de médecins en parlent, ils n'ont jamais vendu, prescrit autant de antidépresseurs et tout ça. Et oui, c'est un nouveau cataclysme qui provoque des angoisses dans notre société, chers amis. Alors si vous êtes inquiets, certains parlent même d'insomnie, moi j'entends autour de moi, hein, d'insomnie, d'autres de cauchemars, de somatisation, d'état de nervosité, même parfois de symptômes dépressifs, on est irrité, tout ça. Eh bien, venez apporter vos témoignages au 01 53 48 3000. Nous vivons une époque, une période très particulière, inédite. Nous avons nous allons de drame en drame, de fléau en fléau. Ça n'arrête pas. Antoine nous appelle de Paris. Bonsoir Antoine.
Oui, bonsoir madame. Alors je vous avais annoncé la troisième guerre mondiale. Vous m'avez pas écouté.
Espèce de merboule, voilà. C'est Samir.
Attends, laisse-moi parler, Vanessa, il y a échec.
Et pourquoi tu te fais appeler Antoine? Tu t'appelles Samir.
C'est Samir.
On n'est pas... Attends. Les élections sont pas passées, on sait pas qui va gagner.
Écoute-moi, Vanessa.
Change pas encore ton prénom. C'est pas au goût du jour.
Laisse-moi parler, Vanessa. Je t'avais annoncé une troisième guerre mondiale, tu m'as rayonné. Je t'ai dit, il va y avoir une guerre atomique avec du gaz. Vous allez tous mourir, les gens. Je vous avais dit de mettre des...
T'arrêtes de dire des bêtises, on va mourir. Ça va pas, non?
Non, je vous avais dit de construire des bunkers, moi, rayonné. À l'époque, je vous avais annoncé 150 000 euros, tout frais compris. Vous m'avez craché au visage. Rappelle-toi, Vanessa, tu me rayonnais. Mais non, il va rien avoir.
Allez, vous proposez de construire des bunkers.
Poutine, il va vous massacrer.
T'arrêtes de dire des bêtises. Tais-toi. Allez, on l'enlève, m'énerve. Arrête. Oh, c'est pas possible de parler comme ça. Attends, je vais voir si c'est assagi. Tu m'entends, Samir? Il est là, Samir?
Tu t'es foutu de moi, Vanessa.
Tais-toi. Non, mais attends. Allô, attends, tais-toi. Il y a des choses qu'il faut pas dire non plus. Ah ben il est plus là. Chef, fic. Non. ça suffit. Quand je dis il faut pas dire, c'est pas la langue de bois. Hein. Vous savez que confidence, c'est sans tabou. Mais de là à dire massacré, machin, etc. Non, mais t'arrêtes tes bêtises. C'est n'importe quoi. Voilà, tout de suite, il suffit d'un truc qui se passe dans le monde fâcheux, dramatique, certes. Et on prie tous les jours que les choses se règlent tranquillement, vraiment. Hein, c'est ce qu'on souhaite tous parce que on n'a pas envie que des civils, encore une fois, soient les victimes d'une politique qu'on ne sait pas. Moi, je veux pas rentrer dans le domaine de... Je l'ai dit un milliard de fois. Hein, c'est pour ça que je cite pas de nom ni rien. Je veux pas du tout qu'on aborde le volet politique. Vraiment. Non, si vous voulez, on peut en parler philosophiquement, on peut avoir peur, etc. Bien entendu, c'est humain. Comment dire, on peut en parler socialement, tout ce que vous voulez, mais politiquement, non, on laisse ça à ceux qui savent faire. Ils savent faire. Je sais pas s'ils savent, mais enfin, ils font. Abdel nous appelle de Courbevoie. Bonsoir, Abdel. Bonsoir, Abdel. Abdel, tu es à l'antenne.
Oui, je t'inquiète, Vanessa.
Ah, bah écoute, ça me fait plaisir de t'entendre.
Ok. Bah après, du temps que je t'écoute presque tous les jours, alors...
c'est gentil.
Abdel, on a l'habitude, hein.
Ah, je t'aime, je t'adore. Abdel, c'est mon plus jeune auditeur, il a 12 ans et demi. Je suis très fière, tu sais, d'avoir un auditeur aussi jeune. Ah ouais. Alors, Abdel, qu'est-ce que tu me racontes aujourd'hui? Comment va Azora, ta maman? Elle va bien?
Ça va, alhamdoulilah, et toi?
Alhamdoulilah, bah écoute, tu l'embrasseras très fort pour moi.
D'accord, je lui dirai, je passerai le message.
Alors, tu as entendu mon sujet ce soir? Alors, un jeune homme de 12 ans et demi, attention, parce que le demi, ça compte à ton âge encore, parce qu'à mon âge, le demi, il veut plus rien dire. À 12 ans et demi, un sujet pareil. Voilà, alors, est-ce que tu te sens concerné? Est-ce que toi, je sais pas, est-ce que tu es un peu stressé parce que tu entends les infos, tout ça, enfin, on a eu le Covid. C'est vrai que tu l'as eu. T'as connu. Ouais, 2 ans, 12 ans, mon Dieu, tu avais tout jeune comme ça, masqué. En fait, depuis 2 ans, tu vois que des gens masqués. Hein, c'est terrible.
Genre, tu peux pas savoir ressentir les émotions, les trucs dans le genre. Tout ça, c'est parti.
C'est-à-dire?
Dans le sens où, avant, quand tu voyais le visage de quelqu'un, t'étais plus content, tu savais à quoi elle ressemble. Là, maintenant, t'es devant un masque. De n'importe quelle couleur. Genre, c'est.
Ouais, tu vois pas les. Oui, enfin, tu lis pas les. Tu parles d'émotions, oui, les émotions et les expressions surtout. Les expressions, oui, sur les visages. Hein. Oui. C'est terrible. Terrible, c'est vrai. Mais là, ça y est, ils vont tomber les masques, hein, à partir du 14.
Ouais, 14.
Mais. Mois. Alors, tu entends parler de cette guerre et tout ça, de ce qui se passe, que font les adultes, qui n'est pas beau, encore une fois. Toi, à 12 ans, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça, tiens?
Bah, c'est grave.
Qu'est-ce qu'on peut ressentir? Ouais. Est-ce que tu as peur?
J'ai pas peur.
Ah oui, c'est fou, parce que les enfants, sont les plus courageux que nous, les adultes. Tu n'as pas peur. Pourquoi t'as pas peur, par exemple? Voilà, t'as pas peur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas peur? Vas-y.
Je me dis, ce qu'il arrivera, c'est Dieu qui va tout décider.
Ah oui, carrément, tu vois, c'est comme ça, toi.
C'est un peu la vérité, parce que dans le sens...
Je sais pas si c'est la vérité. Oui, mais enfin, est-ce que Dieu, il veut les guerres? Est-ce que Dieu veut la guerre?
Ah bon? Non, le problème, c'est que c'est l'être humain qui est mauvais.
Bah oui, alors quand tu dis Dieu, est-ce que tu es pas un peu conditionné quand tu dis Dieu? Déjà, à 12 ans, tu parles de Dieu. Est-ce que Dieu, c'est un sac fourre-tout où on met tous nos fatalismes dedans?
Non.
Voilà.
C'est aussi la faute de l'être humain. Mais l'être humain, il est beaucoup responsable.
Oui, alors pourquoi on ne mettrait pas Dieu de côté et qu'on puisse parler en tant qu'être humain responsable et regarder les choses telles qu'elles sont réellement, on va dire, avec des yeux sans lunettes, tu sais, parce que parfois on met des lunettes fumées qu'on appelle Dieu pour ne pas regarder les choses en face. Tu comprends? Pour être plus pragmatique, est-ce que... voilà... parce que quand on je pense, c'est pas toi, hein, parce que tu ne fais que répéter ce que on entend par-ci par-là. Mais moi, souvent, si tu veux, je donne mon avis. Je suis un peu le grain de sable dans la machine.
Tu peux donner ton avis.
Tu me connais, hein. Tu me connais depuis, hein. Tu sais ce que je pense quand on parle des religions, tout ça, ce que je pense, hein, parce que Dieu, moi pour moi, hein, parce que je suis croyante comme toi. Mais sauf que là où je pense différemment du commun de certains religieux. Eh bien, c'est que je pense que Dieu n'a aucun... c'est pas qu'il n'a pas de pouvoir, c'est pas ça. Mais si tu veux, il n'agit pas. que c'est, on lui impute des pouvoirs qu'il n'a pas ou qu'il ne veut pas avoir, tu vois. Eh bien, on est, voilà, imagine, on est, c'est un laboratoire, la vie, le monde, l'univers, c'est un laboratoire. Et dans le laboratoire, eh bien, nous sommes les souris, les cobayes. Tu comprends? Donc, les souris, quand, alors, il va, alors, dans les laboratoires, les chercheurs, par exemple, pour voir l'état d'anxiété jusqu'où peut aller, ou je sais pas, enfin, et puis, pour maintes choses, voir comment évoluent, ces petites bestioles, eh bien, il va les mettre, voilà, dans un lieu, hein, confiné, et puis, il va rester dans l'observation, mais sans agir, hein, le chercheur. Il n'agit pas. Il les laisse vivre. Voilà. Nous, on serait un peu, hein, c'est l'image, hein, on n'est pas ses cobayes, mais un peu. Donc, il n'agit pas, parce que s'il devait agir, je pense que, à mon avis, il commencerait par sauver tous ses petits-enfants, tout petits, qui souffrent de maladies graves dans les hôpitaux et qui meurent. Tu comprends? Donc, à partir de là, j'ai pris conscience très tôt qu'il n'agit pas. Je pense que j'ai commencé à penser à plein de choses déjà à ton âge. J'étais aussi mature que toi. Je réfléchissais beaucoup. Pour pas déplaire à mon entourage, je ne bousculais pas les choses dans certains domaines religieux, même si j'avais pas la même façon de croire qu'eux. Mais les adultes, les adultes, par exemple, autour de moi, qui étaient dans une croyance aveugle et qui étaient un peu fatalistes et qui disaient tout est mektoub, tout est mektoub, tout est mektoub, tu vois. Au fond de moi, alors moi, au fond de moi, je savais que c'était faux. Mais je voulais pas les bousculer, je les regardais comme des, je disais, c'est bizarre que les adultes soient pas, enfin, ils pensent comme ça, ils sont pas mûrs quand même. Voilà, parce que moi, je crois pas au destin. Je crois qu'on est seul destin, c'est-à-dire qu'on vient sur Terre, voilà, on vient d'un autre univers, on vient d'une autre dimension, pour repartir dans une autre dimension plus tard, le plus tard possible, hein. Et on a un passage comme une croisière. Et qu'on a le libre arbitre sur tout. Et c'est pour ça qu'on fait que des bêtises, d'ailleurs. Tu comprends? Parce que c'est nous, les humains, qui faisons des bêtises. On fait du mal, on crée des guerres, des conflits. Il y a des agressions, il y a plein de choses qui sont négatives. Et si on croit au destin, alors on croit en tout. C'est-à-dire que Dieu aurait créé aussi, aurait planifié toutes ces horreurs qu'on voit. Bah oui, c'est ça le destin. Alors donc c'est pour ça que je ne crois pas au destin. Parce que pour moi il n'a rien planifié, ni de bon, ni de mauvais. On le prie, bien sûr ça nous fait du bien de le prier. Par contre je prierais plus l'univers, tu vois. Parce que l'univers, c'est, si tu veux, Dieu nous a mis dans un univers. Et cet univers, il y a des ondes, il faut ramener vers soi les ondes positives. Ça j'y crois. Mais par contre, comment dire, le fait de dire c'est le destin, eh bien, je pense que on se voile la face. Ou alors, on est dans l'erreur. Parce que le destin, ça voudrait dire, encore une fois, que même les choses les plus horribles, il fallait qu'on passe par là. Il fallait qu'on les vive. Un enfant qui subit des choses graves, certains vont dire c'est son destin. Mais c'est pas possible de penser ça. Son destin, destin, Dieu. Non. Dieu, destin, n'a pas, si tu veux, n'a pas planifié ça. C'est la faute parfois à la vie, à pas de chance, comme certains enfants qui croisent des psychopathes. C'est la faute à pas de chance, c'est pas leur destin. La maladie, c'est pas leur destin non plus. Est-ce que tu me suis un petit peu, tu vois un peu ce que je veux dire?
Dans le sens, c'est pas le destin qui fait tout.
C'est pas le destin qui fait tout. Alors si le destin il fait pas tout, ou il existe ou il n'existe pas. Il peut pas faire à moitié les choses. Je te fais cogiter ce soir. Hein. Je sais, parce que tu sais, je parle comme peu de personnes parlent, surtout dans notre communauté, dans les familles. Parce que les enfants, quand ils sont jeunes...
C'est surtout de nos jours.
Oui, non, toujours. Hein. Moi, quand j'étais jeune, j'avais ton âge, je posais énormément de questions. Puis comme c'était des questions qui dérangeaient, autour de moi, dans mon entourage, les adultes, ça les choquait un petit peu, ça les bousculait. On me disait, non, tais-toi, ne cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Mais si, c'est pas de ma faute, c'est mon cerveau qui est comme ça. Donc, on voulait peut-être pas me répondre, j'allais chercher des réponses ailleurs. J'ai lu des choses qui n'étaient pas de mon âge, de la philosophie, je comprenais pas tout, mais je puisais juste un petit peu ce qui m'était accessible. Mais je suis un peu comme toi. Toi, tu es un peu comme moi, je trouve. parce que tu as une phase où tu te poses des questions et que tu es quelqu'un de curieux et intelligent. Et je pense que les réponses ne va pas toujours les chercher chez d'autres. Essaye de les chercher au fond de toi, par ta vision des choses, par l'observation, ce que toi tu en déduis, tu regardes autour de toi et tu peux évaluer ce qui peut être juste et peut être injuste, ce qui est vrai et ce qui est faux. Et tu peux aussi lire dans la philosophie, parce que la philosophie, c'est des questions ouvertes, hein. Il n'y a rien qui est fermé. Les questions religieuses, etc., les écrits, tout est fermé, tout est bloqué. On te pousse à ne pas réfléchir. On te dit, c'est comme ça, ne réfléchis pas. Et ça, c'est vachement frustrant. Mais par contre, dans la philosophie, on te répond pas dans la philosophie. C'est des questions qui... Tu vois, tu ouvres une porte qui ouvre derrière, sur une autre porte, sur une autre porte, sur une autre porte. Et c'est génial parce que c'est sans fin. Et ça t'ouvre vraiment l'esprit. Oui, Giovanni, ne pars pas, Abdel, je te reprends juste après. On a une toute petite pause. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Beur FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Abdel est toujours avec nous. Notre jeune Abdel, le plus jeune de mes auditeurs, 12 ans et demi, retenez bien. Et en plus, son intervention, hein, à chaque fois qu'il intervient, bah écoutez, les adultes, pour bon nombre, prenez exemple. Hein, prenez exemple sur lui. Hein. Vraiment, hein. Abdel.
Oui.
Bah écoute, moi, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup parce que... C'est gentil. Ah, j'adore quand tu dis que tu m'aimes beaucoup. Tu vois, t'es mon petit ange. Vraiment. Je te souhaite vraiment de réussir ta vie. Et je pense que ta vie, tu vas la réussir. Sauf que tu vas un petit peu souffrir comme moi. Pas souffrir dans le sens où, tu vois, des...
Ouais,
non, mais comme moi. Parce que tu sais, quand on n'a pas de lunettes de verre fumé, eh bien, quand on voit les choses avec clarté, je t'assure qu'il y a des moments où on est mal. Il y a des moments où on est mal, vraiment. Mais on va dire c'est un bon mal. Parce que ça veut dire tout simplement qu'on n'est pas rentré dans le moule.
C'est comme un mal pour un bien.
Voilà, et qu'on n'est pas rentré dans le moule des autres. Parce qu'il ne faut surtout pas que tu ressembles aux autres. Tu comprends? Il faut que tu sois toi-même. Il faut vraiment...
C'est ta personnalité.
Voilà, c'est dur, hein. C'est très dur de se battre et de lutter pour garder justement cette lucidité et cette personnalité. Parce que les autres, à chaque fois, ils veulent te ramener. Toi, tu te sauves. Et on te ramène parce que comme t'es jeune, t'es petit, donc pour eux...
On passe sur le mauvais chemin.
Comment?
On te ramène dans le mauvais chemin. Moi, j'ai constaté ça.
Mais oui.
Il y a même pas quelques mois. Hein. J'ai eu une histoire à cause d'une prof d'anglais. C'est à cause d'une soi-disant amie que j'ai eu des sanctions. Hein.
Tu te rends compte? Tu vois? Mais oui. Tu sais, on vit dans un monde où tu rencontreras toujours des gens que tu vas déranger parce que tu n'es pas comme les autres. Et tu n'es pas comme les autres, justement.
Pour eux, il faut se poser la question. C'est-à-dire, pour eux, genre, dans le sens... C'est-à-dire pas comme les autres. C'est-à-dire pour eux, genre, il faut aussi se poser des questions.
Mais oui. Mais ils ne se posent pas les questions. Parce qu'ils n'ont pas cette capacité. Ils ne vont pas chercher. C'est-à-dire qu'ils avalent tout cru. Tu sais, on dit avaler les couleuvres. Ils avalent tout ce qu'on... Voilà, c'est comme un oisillon. Sa maman, elle vient, puis elle lui met dans le bec des petits bouts de verre, des vers, quoi, des vers de terre, tout ça, pour l'alimenter. Ils vont pas chercher, eux, ils font pas l'effort. Donc, ils prennent pour argent comptant tout ce qu'on leur dit. Moi, j'ai toujours refusé. Et quand j'avais ton âge... Pardon ? Tu me disais, Abdel ? Moi, quand j'avais ton âge, je me contentais pas de ce que me disent. C'est bizarre, hein ? Mais même autour de moi, même la famille, hein, que j'aime et j'adore. Mais pour moi, je me disais que finalement, ils étaient pas, enfin, je les trouvais pas très matures pour des adultes. Donc, et puis ils me contentaient pas parce que je pouvais plus leur poser des questions à un moment donné parce que j'avais jamais les bonnes réponses. J'étais trop en avance sur le temps. Donc, j'allais chercher par moi-même et j'ai trouvé un truc. Alors, j'ai commencé très tôt. J'ai dû commencer à l'âge de 10 ans, je crois, 11 ans.
Jeune,
non? Ah oui, très très tôt. Hein. Et je me suis inscrite à la bibliothèque qui était une annexe de la mairie. J'étais dans le 4e arrondissement, donc c'est une annexe. Elle était dans la mairie, cette bibliothèque municipale. Et j'allais toutes les semaines prendre des livres que j'empruntais. Donc je m'étais inscrite, je me souviens, un petit carton, un petit carnet, enfin rouge, je me rappelle à l'époque, et on me mettait un tampon à chaque fois que je prenais avec la date et tout, et je rendais mes livres. Donc et je lisais, je passais ma journée là-bas, par exemple dans la journée je lisais là-bas. Il y avait un espace où on pouvait lire au calme, et puis après je prenais ceux que je voulais emprunter pour les lire dans la semaine, et je lisais beaucoup. Donc, je trouvais, tu peux pas t'imaginer, satisfaction et bonheur dans ces lectures qui ont fait de moi ce que je suis devenue après par la suite. Je dis pas que je suis quelqu'un d'exceptionnel, mais quelqu'un qui, voilà, j'étais curieuse. Donc, ça m'a pas freinée, parce qu'il y a des enfants qui sont curieux, et puis à un moment donné, on les freine, et puis après, ça bloque, et puis, voilà, ça stagne.
Une heure de pause.
Voilà, et on le met sur pause. Et après, bon, ben, il continue comme ça, que veux-tu. Donc moi, non, je me contentais pas. Donc c'était un truc où je pouvais faire, et je prenais ces livres et je lisais. Mais je lisais énormément. Hein. Je lisais jour et nuit, c'est-à-dire que c'était sans répit. La nuit, il m'arrivait même quand ma mère me disait, mais tu ne dors pas, elle venait voir dans la chambre et tout. Eh ben, je prenais une petite lampe torche que je mettais sous mes draps, sous la couette. Enfin, c'était la couverture. À l'époque, je crois que c'était même pas la mode des couettes. T'as pas connu cette époque. On avait drap et couverture par-dessus. Donc, je mettais en dessous et je mettais ma petite lampe et je lisais. Et puis, j'avais un petit poste de radio. J'écoutais la radio de la nuit. Voilà ce que c'était mon enfance. Tu vois, c'était la radio et, comme toi, la radio, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures. Et j'avais des réponses et ça me faisait du bien. Ça tisait ma curiosité, mon amour pour les autres. Je comprenais la souffrance des gens, parce que je lisais aussi dans mes lectures, il y avait de la souffrance aussi. Donc, parce que je lisais des trucs qui n'étaient même pas de mon âge, tu vois. Donc, où il y avait de la souffrance, des choses vraies, quoi. C'était pas des romans. Hein. Donc, par exemple, j'ai mon premier livre, je me souviens, ma première lecture, c'était Anne Frank, le journal d'Anne Frank. Cette petite, oui, ben écoute, je te laisserai découvrir. Tu regarderas sur internet, hein. Journal d'Anne Frank, hein. C'était une petite fille. Ben c'était durant la Seconde Guerre mondiale. Tu sais ce que les Juifs ont subi, tu vois. Eh bien, cette petite fille, voilà, qui racontait. Et je m'identifiais à elle. C'est mes lectures, entre autres, bien sûr, entre autres. Et je lisais aussi des choses plus légères. Que toi tu ne liras jamais, parce que aujourd'hui c'est plus d'actualité, je sais même pas si on peut les retrouver. C'était des livres de la comtesse de Ségur, c'était très à la mode à mon âge à l'époque. Les malheurs de Sophie, etc. Entre autres.
Les malheurs de Sophie, je connais.
Ah, tu connais? Ah, ça me fait plaisir. Je pensais que j'étais vraiment has-been.
Non, quand même pas.
Ah bon. Mais voilà, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. J'avais un oncle qui lisait beaucoup, et lui il lisait. Comment on appelle ça? Tu sais, des romans noirs, des livres policiers, à l'époque, Guy Descartes, tout ça. Ben, je lui piquais ces livres parce que je lisais tellement vite et que j'en avais plus après. Donc, en attendant de retourner à la bibliothèque, eh ben, je lisais ces livres à lui aussi, hein, qui n'étaient pas du tout de mon âge. Hein. Et je lisais ça, je lisais. Et puis, il était en plus abonné à Réader Digest. Hein. C'était un petit magazine à l'époque. Très à la mode, où t'apprenais beaucoup de choses, plein de choses, tout. T'avais des réponses même à des trucs pratiques et tout. Et puis il y avait aussi des petites histoires, un peu des faits divers, des choses, voilà. Voilà, c'est, tu vois, la curiosité, Abdel. Et c'est là où, quand on lit tout ça, quand on regarde un peu le monde différemment, de temps en temps, tu sais, je me construisais mon avion en carton, je disais. Donc j'avais des copines qui riaient de ça. Je dis, ah, je vais retourner dans mon avion en carton. Quand j'étais un peu fâchée avec, tu sais, avec la famille, des fois on est un peu fâchée. Avec les proches, machin, avec les gens, à l'école, tout ça, quand j'étais pas trop bien.
Ça arrive tout le temps.
Ah, ça arrive, hein, moi aussi ça m'arrivait. Mais tu sais ce que je faisais? Parce que l'adolescence, on est mal. On grandit, il y a tout qui pousse en nous, on a mal aux cuisses, aux genoux, tu sais, les genoux, les articulations qui poussent, déjà t'as mal. Tu te transformes, tu changes, ta voix qui change. Le monde qu'il y a autour de toi, ça te barbe, enfin. Tu te poses plein de questions. Il y a des moments où on est quand même. L'adolescence, c'est dur comme période, parce que c'est dommage que les adultes se penchent pas là-dessus et puis ne soient pas plus conciliants avec les. Oui, parce que c'est difficile. On est dans un moment fragile. Eh bien, je me suis construite dans ma tête. Alors, je vais te dire, je suis un peu, hein, zarbi. Hein, je me suis construite dans ma tête un avion en carton. Ça m'a sauvé, hein, de plein de situations. Un avion en carton, dans ma tête. Comme un, quand je dis en carton, un avion comme si c'était moi qui l'avais construit.
De toi-même, de tes...
Voilà, fantômes. Mais il était dans mes fantasmes, dans ma tête, et virtuellement. Et quand j'étais mal, je m'imaginais, je me recroquevillais comme ça, je fermais les yeux, j'étais dans mon lit, tout ça. Et je m'imaginais monter dans cet avion et m'élever. Ça me faisait du bien, je voyais des choses. Je voyais des choses, j'étais avec les oiseaux, et puis j'imaginais un autre monde. Je m'imaginais rencontrer, pas des extraterrestres, j'avais pas encore conscience de ça, mais d'autres mondes, ailleurs, avec des gens qui étaient beaucoup plus apaisants, où j'étais bien. Ouais, voilà, mais des gens vraiment comme des anges, quoi. Et j'étais bien. Et les autres, je les regardais de haut, tu sais, ils étaient en bas. Et puis je disais, ben, les pauvres malheureux, ils auront jamais ce bonheur-là. Voilà, tant pis pour eux. Et voilà, donc quand j'étais mal, je montais dans mon avion en carton que j'avais inventé, voilà. C'est comme ça. C'est fou, hein, je te raconte des choses que je raconte rarement.
Moi, j'aime bien tes histoires.
C'est vrai?
Dans le sens, tu te vides.
Bah, écoute,
tu te sens mieux.
Ah, mais ça fait longtemps que je me sens bien. Non, c'est... Tu sais, je raconte à des personnes qui peuvent comprendre. Et toi, en l'occurrence, tu peux comprendre. Parce que j'ai pris conscience de... Pas de tout, mais je me posais beaucoup de questions. Il y avait des trucs où j'étais en rébellion. Très tôt, et j'avais ton âge. Et je pense que tu vas aller très 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 loin dans ta vie. Je sais pas ce que tu veux faire plus tard, mais je te verrai bien faire quelque chose où tu vas voyager, tu vas rencontrer du monde. Tu veux faire quoi?
Tu m'avais déjà posé la dernière.
Et tu savais pas, ouais, tu sais toujours. Ouais. Je sais pas, je te verrai bien faire peut-être du journalisme, mais de voyager, hein, voyager. Tu vois, voyager dans le monde, par le monde, faire quelque chose comme ça, ou de l'humanitaire, ça t'irait très bien, je vois, je pense. Voilà mon petit Abdel.
Merci Vanessa. Hein.
Ben écoute, je t'ai raconté mes petites histoires.
J'aimerais juste en rajouter un truc.
Vas-y.
Est-ce que demain, il y a les petites annonces ou confidences?
Alors, demain, les petites annonces, non, c'est du lundi au vendredi. Enfin, le vendredi, c'est mon collègue parce que c'est spécial emploi. Mais moi, je suis présente du lundi au jeudi pour les petites annonces et confidences du lundi au vendredi.
D'accord.
T'aimerais bien que je sois là le samedi, hein?
Ah, c'est très bien.
Et à la rediff.
Oui, c'est logique.
Je te fais de gros bisous, je t'aime fort mon petit bébé, mon petit ange, et ta maman je l'adore, tu embrasses très fort Zora.
D'accord, et j'aimerais aussi je rajouter un truc.
Ouais.
Désolée, hein. Mais...
Non, tu peux.
Le remix que Giovanni l'a fait, c'est bien, en vrai c'est grave stylé, enfin, ça fera genre, plusieurs choses à la fois.
T'as vu? Il a 12 ans, il a dit c'est stylé, moi j'adore, hein. Ah ouais. Parce qu'il a pris des petits bouts, tu sais, d'intervention d'auditeurs. Et puis qui, en plus, tous sont différents. Donc il y a de l'humour, il y a des choses un peu plus tristes, des choses un peu plus drôles. Et comme il est professionnel, Giovanni, donc il sait faire ça. En tout cas, il a fait du bon boulot. Voilà.
Et félicitations, Giovanni.
Eh ben voilà. Abdel, je t'embrasse fort. Bonne soirée.
Moi aussi, Vanessa, et t'inquiète, hein, j'écoute.
Merci, je t'embrasse fort. À bientôt. Un auditeur fidèle qui a 12 ans et demi. Et t'inquiète, j'écoute, hein. Il écoute tous les soirs. Ça, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Vraiment. Que je puisse toucher l'attention et le cœur d'un petit bout de chou comme ça, d'un petit ange de 12 ans et demi. Écoutez, pour moi, c'est que du bonheur. Voilà. Ça veut dire que dans ma vie, j'aurais pas tout loupé, quoi. 01 53 48 3000. Alors, on a Fatiha. Bonjour, Fatiha.
Vanessa, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue Fatiha.
Ça, ben, tu sais, je voulais te dire quelque chose. J'ai appelé, je viens d'ouvrir d'allumer la radio.
Oui.
Parce que la télé en ce moment, toutes les chaînes d'infos carrément boycottées. Parce que c'est fatigant, c'est épuisant.
Ouais, bon. Je comprends.
J'ai tourné en boucle d'autres chaînes à l'étranger et ailleurs nulle part. Bon, j'ai dit oui, j'ai dépassé 22h, Vanessa. Donc, sincèrement, j'ai dit, j'étais en train de fouiller dans mes papiers, puis je dis, non, il est 22h20, ça a commencé. Et je tombe sur une voix, une magnifique voix jeune,
Oui.
De
12 ans.
Je me disais, mais et quel âge a la personne qui parle? Donc, c'est un adolescent.
Il a 12 ans, ouais.
Et je suis arrivée au moment où ça, tu parlais de livres, de lecture. Et donc, le jeune homme était, il est là, attentif. Et tu as parlé de lecture. En une fraction de seconde, j'ai survolé avec toi le flashback que tu as fait. Tu as commencé par Anne Frank. Le journal d'Anne Frank qu'on a tous lu, notre génération. Moi, je suis plus âgée que toi. Beaucoup, même.
Oh, je m'étonne. Mais bon. Là, je ne veux rien dire, hein, alors ça.
Si je te disais mon âge, si je te disais quel âge j'ai
aujourd'hui. Non, ne me dis pas. T'es jeune. Alors,
oui, parce que
c'est dans la tête dans et dans le cœur. Tu as entendu, voilà. Abdel, à 12 ans, il est beaucoup plus mature que l'auditeur précédent, Samy, qui a 40 ans. Alors, ça ne veut rien dire, voilà.
Ah, j'ai pas entendu.
L'âge ne veut rien dire. Alors, donc, je te laisse continuer.
Oui, bon, alors, donc, tu parlais de lecture, donc tu as survolé comment tu lisais sous la couverture, là, avec la radio. La radio, parce que nous, on a vécu, on a grandi avec la radio, justement. La radio. Ben oui. Et moi, je suis allée beaucoup plus loin encore quand tu parlais de bibliothèque et de livres que tu ramenais. Alors, imagine, à Alger, donc... On allait chercher les bibliothèques, il y avait des bibliothèques municipales qui existaient encore au niveau des mairies. Et notamment, par exemple, pour te situer, nous, on allait chercher, on se donnait la peine d'aller à Dia Saada et à Birmandres. Il y avait une bibliothèque à Dia Saada et la bibliothèque Birmandres au niveau de la mairie. On allait, moyennant une petite contribution, je ne me souviens plus de quelques centimes.
Oui, comme ici, pareil.
Oui, voilà, c'était, je crois, 20 centimes, je ne sais plus. Oui. Voilà, on avait l'âge de... Comment il s'appelle, le jeune auditeur précédent ?
Abdel,
mashallah, franchement. Rabbi Yisitro, et franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. On allait chercher des livres, et d'ailleurs, quand tu parlais... J'ai préparé ma carte de bibliothèque pour aller chercher des livres demain, Inch'Allah.
Ça existe encore?
Bien sûr que ça existe.
C'est vrai? Je ne sais pas. Enfin, les petites cartes, là, les petites cartes d'abonnement, quoi. Ah, je ne savais pas.
C'est sûr, on a une carte.
D'accord.
À la bibliothèque, génial. On a une carte. On peut, bon, une fois qu'on est inscrit, il faut la renouveler. Si elle est
Dieu, que ça puisse durer longtemps, parce que ça se perd, ces bibliothèques. Elles se perdent, à mon avis, hein, avec l'arrivée de tous ces écrans. Hein.
Oui, c'est vrai.
Parce que toutes les mamans que je connais me disent que leurs enfants n'aiment pas lire. Qu'est-ce que je te dis?
Oui.
C'est bizarre, hein? Ils sont tous sur les écrans, c'est triste.
Mais par contre, dans les bibliothèques, moi, je remarque que bibliothèque, quand on va dans une bibliothèque, quand il y a des... Parce qu'il y a bibliothèque où... Il y a bibliothèque et bibliothèque. Il y a des bibliothèques où c'est beaucoup plus pour des jeunes. Et ils sont là, ils viennent régulièrement, ils viennent pour des activités, ils prennent des livres et ils se donnent la peine de venir et de prendre des livres. Donc moi, j'ai préparé ma carte avant d'allumer la radio, hein. J'ai trié mes papiers et je les ai mis à portée de la main. J'ai dit, il faut que j'aille chercher des bouquins.
C'est formidable.
Maintenant, je suis retraitée, bon, les petits-enfants et tout, mais il y a un moment, j'ai envie de lire, voilà.
Mais oui, mais comme ça fait du bien.
Tu as parlé du journal d'Anne Frank et tout ça, et tu as cité la comtesse de Ségur. C'était toute notre lecture quand on était...
La comtesse. Les malheurs de Sophie.
Alors, quand tu as cité
Et Bécassine... Bécassine,
Mais moi, ce qui m'a fait bondir comme ça de voilà, je suis retournée. Le malheur de Sophie, mon premier prix à l'école primaire.
Ah ben tu vois. Ah ben moi, voilà. C'est pas mal. Moi, je me souviens, mon prix de français de lecture, c'était Ces dames au chapeau vert. Ça, je me souviens du titre, vois-tu. Et puis il y avait aussi, je sais pas, tu as dû faire la même chose. C'était les bibliothèques, tu as dû les connaître. La bibliothèque rose. Il y avait la bibliothèque verte.
C'était la collée. Alors voilà, je vais te dire. J'allais les citer avant que tu les cites.
Ah.
On a lu toutes les collées. Ils existent encore. Hein.
Oui.
Il y a une nouvelle version, aussi bien la présentation, mais la version originale. Eh ben, moi, je suis arrivée, on peut les trouver dans les bibliothèques où il y a des livres anciens, occasions, comme Gilbert Joseph, etc.
Oui.
Mais il y a une librairie, je ne vais pas citer l'adresse, c'est une merveille de librairie où ils vendent des merveilles pour pas cher, mais vraiment. C'est vraiment une librairie, si je pouvais donner l'adresse que les gens... Enfin, j'ai trouvé toute la série...
C'est des livres d'occasion ?
Oui, c'est des livres d'occasion.
Ah ben si, mais des livres d'occasion, tu peux donner, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine pour les gens. Je pense que franchement, c'est des livres d'occasion, ça coûte pas cher. Donc les gens, oui. Je pense que ceux qui sont à l'intérieur, ils font ça vraiment comme du bénévolat. Et ça peut servir à des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des livres. Donc tu peux donner, bien sûr que tu peux.
C'est une grande librairie. Elle est riche.
Riche par le contenu.
Elle est riche, parce que c'est très divers. On trouve de tout. Franchement, on trouve de tout pour tous les goûts, tous les niveaux, etc. Alors, imagine, ça fait longtemps que j'ai pas été. Quand il fait beau, il y a des étalages de livres à l'extérieur, comme on trouve à Gibert-Joseph, à Saint-Michel. Ou bien même, c'est pas pareil, celui de Barbès n'est pas pareil, pas aussi riche. Dans cette librairie, alors, il mettait des étalages de livres, et quand moi je passais, j'étais perdue dans, je retrouvais pas mal de livres et je tombe sur la collection entière, la bibliothèque rose dont tu parlais maintenant. C'est Enid Blyton, quelque chose comme ça. Collection verte, collection rose. Alors rose, c'était le club des cinq.
Le club des cinq, oui. Et le club des sept aussi.
Et le clan des sept. Et la bibliothèque verte, c'était le clan des sept. On a vécu comme on... Bon.
Ah, les aventures, mon Dieu. J'ai l'impression d'être avec eux, hein. C'est formidable.
On a voyagé. En fait, on a beaucoup voyagé à travers la lecture. On n'est pas sorti de nos murs, hein, parce qu'on sortait pas.
Avec les parents, c'est dur, hein.
Non, on sortait pas. Notre évasion, c'était la radio. Ouais. En petite sourdine pour ne pas dormir quand on travaillait. Ouais. Vraiment à côté, inséparable. Et la lecture. À travers cette lecture, c'était le voyage. C'était vraiment voyager. Au sens propre du terme.
C'est ça.
C'est ce que je voulais dire, je voulais partager. Excuse-moi Vanessa, je ne l'ai même pas passé parce que tu étais occupée avec le jeune homme, j'étais émerveillée. J'ai dit, allez, j'ai laissé tomber ce que je faisais, j'ai dit, je prends le numéro. Si on répond tout de suite, je laisse un petit message à Giovanni pour dire à Vanessa que le fait que tu aies cité les malheurs de Sophie, ça m'a fait franchement faire un bond en arrière. Alors une merveilleuse institutrice qui m'a marquée. On sait très bien que un enfant n'oublie pas, d'accord. Il y a des institutrices. Alors je te dirais que moi je parle de l'époque avant l'indépendance et juste au niveau de l'indépendance.
Oui.
Il y a celles qui nous ont marquées au point que on les a jamais oubliées.
Bien sûr.
Il y en a. Moi, j'ai retrouvé mon institutrice du CM2, je l'ai retrouvée, elle est dans le sud de la France.
Oh.
C'est une belle personne qui n'a pas changé, elle a pris de l'âge, mais elle est aussi belle. Oui. Elle était belle dans notre tête quand on était, donc on ne sentait pas le... tout le parcours du primaire jusqu'en CM2, c'était... Il n'y en a qu'une seule qu'on a zappée. Donc j'imagine qu'il devait y avoir un truc où elle nous a marqué, mais sinon le reste. Et voilà, tout simplement. Et ben Vanessa, première sonnerie, Giovanni me répond. J'en ai profité pour lui dire que c'est une personne, comment dirais-je, il y a en fond une note, une touche, mais vraiment une belle touche, note tout ce que tu veux sur Beurre FM. On le sent dans le choix, par exemple, quand il passe dans la journée, on sent qu'il y a du... C'est nouveau, quoi. Son programme, donc quand il passe le programme musical, etc., c'est très varié. C'est pas centré sur une seule direction, un certain genre de musique. C'est varié. Donc je tiens à le féliciter, dire que franchement, je lui ai dit bravo pour ce qu'il fait et je lui souhaite une bonne continuation et de persévérer et de
réussir. Il est très touché, hein, je tiens à te dire, il est très ému et très touché.
Ah non, mais personnellement, quand on est... Vanessa, c'est pas pour dire, mais
oui.
On est une enfin personnellement, on est une génération qui avons été marquée par. Je veux dire, on est des enfants de la guerre, ok, mais on a une richesse en nous, quelque chose d'inimaginable, et nous sommes deux cultures très fortes à la fois. C'est ça qui est génial en nous.
Mais oui.
Ta génération, la mienne, moi je suis plus âgée que toi. Ça, je te le garantis, il n'y a aucun souci. Et toutes ces choses, franchement.
C'est des richesses, tout ça. C'est des richesses cumulées parce qu'on a traversé des époques, c'est ça.
Oui.
Et que ces époques, eh bien, on en a tiré du bon. C'est ça qui est important. Parce que dans chaque époque, il y a du bon et du mauvais, même en état de guerre, parce qu'il n'y a pas que du mauvais. C'est vrai que dans une guerre, c'est atroce. Une guerre, c'est sale, c'est horrible. Ça, on pourrait se passer de guerre. Mais même pendant les périodes de guerre, il y a des histoires, d'ailleurs, dans les ceux qui lisent, hein, puisque nous, on aime la lecture, on y retrouve des histoires merveilleuses pendant les périodes de guerre, des histoires d'amour, des histoires magnifiques, quoi.
Mais
drôles, parfois, parce que les gens vivent, malgré tout, les gens ne sont pas fatalistes. Même pendant les guerres, les pures monstruosités, eh bien, les gens vivent des moments merveilleux, oui.
Vanessa, excuse-moi de t'interrompre.
Je t'en prie.
Toi, tu dis que à travers des lectures que les gens. Moi, j'allais juste te dire que la meilleure lecture, c'est le souvenir de ce qu'on a vécu réellement.
Oui, non, je parle des lectures dans le sens où on retrouve ce qu'on est en train de dire dans certaines biographies, tu vois, parce qu'il y a des gens qui écrivent leur vie et tu te dis, oui, effectivement, ils ont raison. Pendant les guerres, c'est-à-dire que je suis pas la seule à avoir vécu, et nous, on n'a pas vécu grand-chose par rapport à d'autres qui ont vécu vraiment des choses terribles, hein, vraiment, et qui te racontent des moments compliqués, des moments difficiles, des moments douloureux, mais ils ont tiré, c'est une histoire.
Le bon grain de livret.
Ouais, mais il y avait pendant cette période sombre, bien sûr qu'il y avait des horreurs, ils ont perdu des êtres chers, mais en même temps, parce que il faut vivre le quotidien, en même temps, il y avait des moments de bonheur aussi. Et ça, il y a des gens qui savent aussi le raconter. Moi, j'aime bien aussi Boris Cyrulnik, qui lui raconte. Qui a vécu l'horreur de chez horreur, lui. Hein. Ses parents ont été massacrés, tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui-même, il a été sauvé in extremis par une famille chrétienne qui l'ont sauvé et qui l'ont baptisé à l'église comme si c'était leur enfant, vite. Hein, ils lui ont fait porter la croix et tout, mesquine, tout de suite pour en faire un bon chrétien, pour pas qu'il soit tué, parce que les nazis étaient c'est des monstres, ça. Tout, on n'a pas besoin de le dire, c'est un euphémisme. Les enfants, ils n'avaient pas d'empathie ni pour les enfants, ni pour les bébés, ni rien. Donc il fallait le baptiser, le rendre chrétien, voilà. Mais ses parents étaient massacrés devant lui, et lui il était caché, donc voilà. Mais il a tout vu, il a vu plein de choses. Mais il était tout petit garçon. Mais aujourd'hui, il est devenu un grand psychanalyste, quelqu'un qui écrit de belles choses, des merveilles. Ce monsieur, il n'a pas un cerveau, il en a 10. Moi, j'ai une grande admiration et beaucoup d'amour pour lui, Boris Cyrulnik. Je le lis beaucoup. Je l'écoute aussi le soir en m'endormant parfois, dans ses conférences. Il nous apprend beaucoup de la vie. Vraiment. C'est ça, l'enseignement de la vie. C'est là qu'il faut aller puiser. Dans le vécu. Mais lui, il guérit les gens. Aujourd'hui.
Oui, mais à travers ce qu'il fait, il a fait psychothérapie, c'est ça?
Oui, parce qu'il il parle de résilience. Donc, c'est parce que j'ai appris à travers lui ce que c'était que la résilience. Donc, c'est là où tu te dis, ah, d'accord, je l'ai vécu alors. Parce que on sait pas toujours ce que c'est, les choses. On sait pas, on vit des choses, on s'en tire tant bien que mal, mais on sait pas ce que c'est. On sait pas, on se dit, il y a des forces en nous, khlas, tu vois. On sait pas. Mm-hmm. On est plus fort que d'autres et tout. Non. Il y a cette résilience qui fait que, il faut que les gens, apprennent ce que c'est que la résilience pour comprendre ce que c'est, pour comprendre les enfants, pour comprendre la souffrance des autres. Et puis elle est en nous, mais chacun, on n'est pas tous égaux. Il y en a qui ont cette chance de pouvoir vivre leur résilience. Oui, pardon.
Tu parles de résilience, de personnes résilientes, etc. Ben, je prends le pourquoi nous, toi, tel que on te connaît, on pense pareil parce qu'on a reçu les deux mêmes éducations. Je vais dire
Et même dans des pays différents, mais c'est la même.
C'est la même.
C'est la même.
Quand on était de l'autre côté de l'Algérie, ou ici, c'est pareil. Donc, on n'a rien appris en venant ici, vu que nous, on a vécu pareil. Mmh. Mais nous avons gardé notre. Nous sommes les deux cultures à la fois, qu'on le veuille ou non.
C'est ça.
Voilà. Et ce qu'il y a, tu parles de résilience. La meilleure des résiliences, pourquoi nous on est comme ça, on n'a pas cette rancune, on n'a pas cette haine au cœur, on a de l'empathie pour tous ceux qui doivent avoir de l'empathie, parce que nos parents qui n'ont pas fait les grandes universités et nos arrière-grands-parents qui ont laissé à nos parents, etc., ne nous ont jamais parlé avec haine. Ils ont vécu des horreurs. Ils n'ont jamais... Moi, j'ai pas le souvenir de mon père, ma mère, mon grand-père, etc., parler de haine. Je vais citer un exemple tout simple et j'arrête parce qu'il y a des auditeurs qui attendent. Il y a pas longtemps... en parlant du président Chirac, paix à son âme.
Oui.
Le président Chirac, il avait fait quelque chose, c'était en 2006, il y a eu la sortie du film que tu dois certainement connaître, Indigène.
Oui.
Voilà. Donc, ce film-là, quand il est passé en avant-première, le président Jacques Chirac l'a vu. Bon, vu que c'est pas un film qui va passer directement dans les salles. Eh bien, à partir de ce film-là, moi, quand j'ai été le voir juste après l'avant-première, il est sorti en salle, automatiquement, on s'en bondit dans tous ces films-là.
Oui.
Je te jure, Vanessa, regarde, là, je suis en train de te parler, j'ai la chair de poule. Dans la salle, il y avait à côté de moi des jeunes. Bon, apparemment, c'est pas le faciès, hein. Mais c'est des jeunes qui n'ont pas vécu cette période-là, des jeunes français d'ici. Ici, voilà, c'est visible comme ça. Ils pleuraient.
C'est pas étonnant, ouais. Mais très bien joué. C'est un super film, avec Jamel Debbouze, qui a été Jamel merveilleux dans ce film. Roche Dizem, Sami Bouadjila, Sami Nasri aussi.
Sami Nasri.
Vraiment, c'était...
Festival de Cannes, il a parlé justement de ce film.
Eh bien,
c'est juste après ce film que le président Chirac, il a fait de belles actions quand même. C'est juste après, parce que on voyait à la fin du film, donc les Algériens, Sénégalais, etc., ceux qui ont
les tireurs,
à la fin, comme nos grands-parents aussi, nos grands-parents, ils rentrent dans leur chambre, dans les foyers, qui sont plus dans des appartements, et ils peuvent pas aller de l'autre côté, parce que s'ils partent de l'autre côté, leur retraite s'en va. Eh bien, c'est à partir de là, il y a eu même des témoignages justement au Festival de Cannes après ce film. Des gens ont témoigné en disant que c'était injuste parce que il y avait le témoignage de 4 personnes qui ont participé en même temps au même combat.
Oui.
Et il se trouve que l'Européen avait une pension, l'Algérien et le Sénégalais avaient la moitié. Bon, exemple, mon grand-père maternel. Et moi, je me dis, oh là là, c'est dommage. L'année où le président Chirac a revu, on va dire, pour compenser, on va dire matériellement, parce que le reste, ça ne peut pas se compenser. C'est la reconnaissance.
La reconnaissance.
On ne reparle pas de repentir.
Non, et la reconnaissance. Repentir, c'est encore autre chose. Ça peut toucher d'autres domaines. Une guerre qui est liée directement. Quoique moi, j'ai quand même un avis un peu différent concernant le repentir. C'est pas le repentir, mais reconnaître, mea culpa, parce qu'ils le font, hein. On le fait, on le voit. Dans plein de guerres, le repentir, ce qu'on appelle le repentir, moi, ça m'énerve ce mot, hein. Mais, demander des excuses à un peuple qui a souffert, quoi, c'est tout. Moi, je suis pour ça. Moi, quand je commets une erreur, mon intelligence me dit que je dois aller m'excuser. Demander des excuses plutôt. Pas m'excuser, mais demander des excuses. Parce que s'excuser, ça veut dire que c'est presque toi qui tu t'excuses, quoi. Et puis voilà, basta. Non, tu demandes à l'autre s'il veut bien t'accorder ses excuses. Et je pense que ça devrait l'être. Ça devrait l'être, à mon avis. parce qu'il y a eu des tortures en Algérie. Il y a eu des tortures, il y a eu des choses qui ont été pendant durant la guerre d'Algérie, il y a eu des viols. Mohamed Garde, dont j'ai parlé la semaine dernière, qui est issu d'un viol de militaire sur sa mère, etc., qui a fini folle, mesquina, qui avait toute sa vie, elle était ravagée cette femme. Elle dormait dans des cimetières, ils l'ont trouvée vraiment dans un état pas possible. Elle a fini, voilà, elle a toujours été, sa vie a été ravagée parce qu'elle a subi des viols dans une caserne depuis l'âge de 14 ou 15 ans. Et elle a mis au monde un enfant de militaire qu'elle connaissait pas. Enfin, cette femme, elle a fini folle. Il y a beaucoup de femmes comme elle. Donc, si on demande pas pardon à un peuple qu'on a fait souffrir de cette manière-là, moi, je me demande c'est quoi le pardon, quoi. Voilà. Quand un pays comme la France, que j'aime beaucoup parce que je me sens très bien dans ce pays, je me sens française. Mais je veux dire pour vraiment que ce pays reste aussi lumineux et encore ça va lui redonner encore plus de splendeur. C'est justement qu'un jour, eh bien, le gouvernement français puisse présenter ses excuses, voilà, demande pardon au peuple algérien qu'à l'époque, eh bien, qui a souffert de toutes ces actions de l'armée française, qui a quand même commis pour certains des tortures, des viols, tout ça. Voilà, à l'époque, je parle de l'époque, c'était l'époque de la guerre, mais il y avait des choses qui se sont faites qui n'étaient pas humaines. Donc je suis pour le repentir dans ce sens, Fatiha. Je te reprends juste après, on a une pause, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Beur FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
Au 01 53 48 3000 avec Fatiha, on termine avec Fatiha, je prendrai Farida juste après. Fatiha, tu es toujours là? Oui, alors Fatiha, que je précise pourquoi je dis ça. Je ne parle pas des nombreux colons qui étaient des gens modestes, attention, hein, parce qu'il y avait beaucoup de colons à l'époque qui étaient des gens modestes, qui voulaient juste vivre comme les autres et qui n'étaient leur niveau de vie n'était pas loin de ceux des musulmans, hein, c'était des pauvres gens, hein, pour la plupart les millions de colons qui étaient là-bas, qui vivaient modestement. D'ailleurs, Camus, Albert Camus en parle très bien dans son livre La Peste, où il disait par exemple de tous ces colons qui étaient des pauvres gens aussi, hein, ça, voilà, il dit ils étaient loin d'être des colons portant cravache, fumant le cigare et monté sur Cadillac. Donc c'était des gens modestes, voilà. Donc c'est pas de cela dont il s'agit. Là, de quoi on parle? De la guerre par elle-même, des horreurs de la guerre. Et que voilà, c'est comme toutes les autres guerres, c'est bien qu'un État reconnaisse qu'il y a eu, parce que peut-être qu'ils n'étaient pas au courant dans les bureaux ici, mais il se passait des horreurs là-bas. Donc voilà, après l'OS, on sait ce qui s'est passé, mais pendant la guerre, il y a eu des actes abominables. On a quand même dans nos familles des actes de torture. On peut pas cacher ça. On a des actes de torture dans nos familles. On a des proches qui sont morts dessous les tortures. On peut pas. C'est pas possible de cacher la vérité. Donc, il serait bien. Moi, je le trouve très bien. Moi, ma deuxième patrie qui est la France, que j'aime énormément, puisque je me trouve bien ici, sinon j'y serais pas. Voilà, et c'est une terre de droit, c'est vrai, de droit de l'homme déjà, et de droit et d'expression aussi. Bien, il serait bien qu'un jour, voilà, peut-être que le président Macron, il a commencé déjà. Moi, ce président, oui, j'ai de la sympathie pour lui, enfin, dans ce sens où il a pas connu la guerre, donc il est hors, mais peut-être d'aller un peu plus loin. Il a parlé de crimes contre l'humanité, il avait raison. Je parle pas que de la guerre d'Algérie parce que j'ai pas de parti pris. Toutes les guerres, parce que j'aime bien quand ils disent, quand ils parlent de crimes contre l'humanité, est-ce qu'on reconnaît, on reconnaît pas? Alors moi j'ai envie de dire à tous les gouvernements du monde, tous, toutes les guerres, tous les conflits, hein, toutes les guerres.
Alors, des crimes contre l'humanité.
Et toutes les guerres, c'est toutes des crimes contre l'humanité parce qu'on tue des humains. Exactement. Et je suis contre le fait de cette hypocrisie, parce qu'en ce moment, tu sais, il se passe des choses, cette guerre et toi nous rend malade. Et toutes les guerres nous rendent malades. Mais il y a une chose qui me rend malade, c'est l'hypocrisie des hommes, des êtres humains, quoi, et de tous ces États. Parce que regarde, on fabrique des armes. On vend. Pourquoi on les fabrique? C'est pour les vendre, hein. C'est pas pour les mettre dans des musées derrière des vitres, hein. On fabrique des armes, on vend des armes, et ceux qui les fabriquent et qui les vendent, c'est ceux qui sont à la tête des États. Parce que ça ramène de l'argent, mais ils savent très bien que c'est parce qu'ils sont contents. Ils nous donnent des chiffres en disant ah on a vendu tant de missiles, tant de voilà et tout. Mais vous savez très bien que ces armes que vous fabriquez, si vous les fabriquez, elles vont tuer. Donc si vous les fabriquez, vous les vendez, c'est pour quelle utilité? Ben pour tuer des êtres, des innocents, des enfants et des innocents. Voilà. Alors donc c'est ça l'absurde. Tu comprends? C'est d'une absurdité phénoménale. On fabrique des bombes, des armes. on les vend, on prend cet argent qui est pour moi sale, cet argent, hein, on vend, et on vend la mort. Et après, alors le pire dans l'histoire, t'entends en ce moment, tout le monde est étonné, c'est inhumain, c'est pas normal quand même, parce qu'il y a des, il y a des civils qui sont tués, bah les armes, elles tuent les civils. T'as envie de leur dire, bande de nouilles, elles vont tuer qui? Elles vont tuer les rochers? Oui, à la télévision en ce moment, c'est ce qu'on entend. Oui, alors vous comprenez, c'est anormal. Il y a eu tant de civils, il y a des civils. Ah, bombardés. Mais vous vendez des armes. Si vous vendez des armes, c'est qu'ils vont bombarder. Donc si vous voulez qu'il n'y ait plus de gens massacrés, parce que là, on devient schizophrène, on s'étonne pourquoi les armes tuent. Bah, si elles tuent les armes, c'est pas parce que vous les fabriquez, vous les vendez. C'est ça. Alors donc, si vous voulez pas que des êtres humains meurent, moi je dis à tous les États qui fabriquent des armes, arrêtez d'en fabriquer. Fabriquez des outils qui donnent la vie.
Cet argent, l'un contre l'autre.
Et cet argent, mais oui, parce que ça rapporte de l'argent. Cet argent, mettez-le dans les laboratoires pour sauver des vies, sauver des gens dans le monde. Mais arrêtez de nous fabriquer des armes et de vous étonner, Zama, en prenant le micro, en disant, mais c'est pire qu'inhumain, parce qu'ils disent, ils parlent de génocide, par-ci, par-là, on tue, mais vous rendez compte, c'est pas normal, il y a eu des bombardements. Mais qui c'est qui a vendu des armes? Mbebekoum. Shkoun. Les extraterrestres. C'est vous qui les fabriquez dans vos usines et vous étonnez qu'elles tuent des gens. Moi, je deviens folle, hein. Moi, je deviens folle parce que je me pose des bonnes questions. C'est, voilà. Je dis pas que j'ai la science infuse, c'est très basique, hein, mes questions, mais je me les pose. Et quand je regarde à la télévision, c'est des canulars, c'est pas possible, tout ce qu'on nous raconte. Mais oui, tout le monde est étonné. Ah bah oui, ils ont tué tant de gens. Maintenant, avant on comptait les victimes du Covid, là il y a pas longtemps, il y a quelques mois, et aujourd'hui on est en train de compter les victimes des bombes. Bah oui, mais le Covid c'est pas notre faute. Le Covid nous est tombé dessus. Mais les bombes, je suis désolée. C'est dans vos usines qu'elles sont fabriquées, hein. C'est pas, elles viennent pas du ciel, hein. Tu vois ce que je veux dire? D'où ma révolte, Fatiha?
Les moutons de Panure, j'y suis. Tout simplement un meneur. Bon, enfin, c'est pour ça que je t'ai dit, moi, la télé en ce moment, personnellement, c'est terminé. J'éteins. Aucune chaîne.
Ah, bah, t'as raison.
Franchement, aucune chaîne. Je regarde, j'écoute la météo, à la limite, sur la radio. La radio, oui, j'écoute la radio. Et pas. Dès que ça parle de ça, je zappe.
Voilà, politique.
Il y a trop de. Depuis, trop moi je sais. Quand j'ai appelé, c'était pas parler de comment dirais-je, des malheurs de Sophie, des livres et tout ça.
Voilà.
Et puis regarde, on s'embarque. Oui. Moi, on est dégoûté depuis. Je me rappelle la guerre de l'Irak à l'époque en Algérie. Il y avait pas la parabole partout. Et moi, déjà à l'époque, moi le lendemain j'ai pas été travailler parce que j'ai passé la nuit à écouter. On avait la parabole, à écouter les informations qui venaient de je sais plus quelle chaîne, enfin de France de toute façon, chaîne française. Et tout était au conditionnel. Il semblerait qu'il y avait aucune image, mais déjà il y avait une désinformation. Le lendemain j'étais malade. J'ai pas été travailler.
C'est fou, hein.
Et mon justificatif, j'ai dit, je suis sortie dans la matinée, parce que les gens qui n'avaient pas la parabole, ils savaient pas ce qui se passait. Mm-hmm. Alors, tu as l'impression que tu étais un extraterrestre et qu'ailleurs il se passe un truc. Je suis sortie pourquoi? Parce qu'il fallait que j'achète à manger à notre chat.
Oui.
Chez le sardine, parce qu'il mangeait que des sardines.
Voilà.
Le chat. Sinon, et après, comme justificatif, j'ai dit que, carrément, la vérité, j'étais malade. Bah, des informations. Alors après, il y a eu toutes les autres.
Et puis en plus, tous ces mensonges, mon Dieu. C'est après qu'on se rend compte. C'est pour ça que je ne crois plus rien maintenant. Tu sais, les gens, ils parlent et tout, ils disent, ah, il est méchant, pourquoi il y a ça? Je dis, écoute, je ne sais pas, moi, les méchants gentils, j'en connais pas. Hein. Voilà. Alors, donc, je ne rentre pas moi là-dedans, hein, parce que peut-être que dans peu de temps, on va prendre encore autre chose, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je rentre pas là-dedans, mais alors vraiment pas là-dedans du tout. Moi, je sais que les civils, ils souffrent, c'est ça. Moi, je suis du côté des civils. Voilà, c'est tout. Peu importe, qui sont.
Les mensonges.
Ils mentent. Tout le temps.
Les mensonges. La manipulation et tout, de toute façon. Comme on dit. Je sais pas comment je vais traduire ça parce qu'il y a des choses. Même si on essaie de traduire à peu près, on peut jamais traduire la force de ce que ça veut dire.
En arabe, oui.
En arabe.
Tu sais que la traduction, on dit c'est traduction égale trahison. Parce que la traduction, elle ne donne jamais la bonne version. Donc quand on essaie de traduire, on trahit. C'est comme ça. Traduire, c'est trahir. Oui.
Eh ben, tu veux que je te dise juste ça.
Vas-y, ma chérie.
En parlant de traduction.
Oui.
Je me rappelle que nous sommes la génération lycée juste après l'indépendance.
Oui.
Donc au lycée, je sais pas si tu dois connaître le lycée Hassib Ben Bouali.
Bien sûr, il est très connu. Si j'en connais un, je connais celui-là.
eh ben, tu sais, quand on rentrait déjà sur le devant du lycée, il y a une grande fresque, une immense fresque,
oui.
Où il y a écrit, jusqu'à présent, elle y est, tout l'univers n'est gouverné que par les livres.
Ouais.
Et d'une. Quand on rentrait, il y a la photo de Hassiba, la très belle photo de Hassiba, et comme nous on est rentré en sixième, on en est sorti en terminale. Donc on a grandi ensemble.
Ah, ouais.
C'est pas comme le cycle troisième après qu'on se réadapte en seconde.
Ouais.
Ça, c'est un chamboulement. Non.
C'est vrai. C'est bien pour ça
que c'est des générations spéciales, ces générations-là. Et quand on rentrait, on voyait cette photo.
Oui.
Même par exemple, si au fond de soi, on est en train de, etc. Dès qu'on voit cette personne, on éprouve le besoin de se dire, je dois être à la hauteur.
On a envie de
rentrer travailler.
Tu vois.
Et donc il y a ça. Il y a tout
la
ça.
La harara, comme on dit.
Voilà. Et donc dans les professeurs qu'on a eus. Il faut dire ce qu'il en est. Nous avons eu d'excellents professeurs.
Oui.
Mais franchement, d'excellents professeurs. Donc, voilà. Alors, en langue, puisqu'on parle de traduction en langue, c'était l'époque où on avait le choix des langues. On avait...
Le français était encore en application.
L'anglais, l'italien, l'espagnol et jusqu'au russe.
Ouais.
Au moment des langues, par exemple, vers les classes de seconde, parce qu'on était orienté vers des branches différentes, sciences, maths, etc. Quand on avait tronc commun, on va dire, au niveau de certaines matières, mais pour les langues, chacun allait vers l'anglais, vers le russe, machin. Mmh. Par exemple, il se trouve qu'on avait une copine, elle était seule avec le prof pour le russe, par exemple.
Oui.
Voilà. Mmh. Eh bien, il y a eu une année, et je risque pas d'oublier, c'était en classe, moi j'étais en seconde, on a eu d'excellents profs.
Oui.
Eh bien, on a vu auparavant ce qu'on appelait les thèmes et les versions.
Mmh.
C'est-à-dire que pour les examens, n'importe quoi, compo ou contrôle, on nous donne un texte en français, il faut le traduire en anglais, par exemple, personnellement, j'ai choisi l'anglais.
Mmh.
Et vice-versa, on nous donne un texte en anglais, il faut le traduire en français.
Mmh.
Ça, c'était pour les francophones, parce qu'il y avait les deux tendances. Il y avait francophone, on va dire arabophone.
Mmh.
C'était soit, par exemple, l'anglais par le français, ou bien l'anglais par l'arabe.
Par l'arabe, oui.
Alors, quand on faisait ce travail-là, La langue qu'on manipulait le plus, évidemment, notre langue, c'était quoi ? Le français.
Le français, ben oui, bien évidemment.
Donc, quand on avait un texte en anglais, on essayait de traduire, mais on était obligé de passer notamment par le français.
Par le français.
Tu parlais de tordre le cou à l'expression, donc on passe pas le message. Eh bien, il y a eu une nouvelle méthode. C'était quoi? C'était de comprendre la langue par la langue elle-même. Je te donne un petit exemple. La professeure, par exemple, qu'on avait, elle nous lit le texte en anglais. Donc, il n'est pas question de penser en français.
En français, c'est ça. C'est ce que disent les professeurs, d'ailleurs. Hein.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lit la première phrase. Elle nous dit, donc, dans la phrase, s'il y a un point, il y a un mot ou un ou deux qu'on n'a pas compris. Donc ce mot, elle va pas nous dire bon allez dans ça veut dire porte.
C'est ça.
Non, ça c'est trop facile.
Exactement.
Ça veut dire que c'est partisan du moindre effort. Oui. Ça veut dire qu'elle se casse pas la tête.
Oui.
On a eu des gens magnifiques. Qu'est-ce qu'elle fait?
Oui.
Elle utilise le mot dans une phrase qui n'a rien à voir avec le texte. Par exemple, I open the door.
Oui.
Alors si par exemple je comprends pas open. Elle va utiliser le verbe to open dans une phrase.
Que tu puisses comprendre, oui.
Voilà. Jusqu'à un moment donné, elle oriente notre esprit pour penser en anglais.
En anglais, oui, c'est pas idiot. Ouais.
Voilà. Ouais. Et c'était la même chose dans les autres langues, je présume.
Ouais.
Et c'est là que voilà. Alors, ouais. Justement, en parlant de traduction, et j'arrête.
Oui.
Ça rejoint l'idée. Tout à l'heure, on avait parlé de repentir, repentance. L'histoire de repentance, repentance, les Algériens, ils disent ici, oui, les Algériens, ils veulent on veut la repentance. La repentance, c'est les nouvelles générations actuellement, la nouvelle France maintenant, elle n'a pas à assumer les. Excuse-moi, je vais dire un gros mot, si je peux.
Tu peux.
Les conneries des crimes de ceux qui ont commis des crimes en Algérie, c'est pas la France d'aujourd'hui.
Mais non, ça n'a rien à voir avec la France d'aujourd'hui.
Voilà, c'est pas la génération.
Et même les Français que citoyens de l'époque, ils ne sont pour rien dans les actes qui sont commis.
On parle d'une
minorité de l'armée française, voilà. D'une minorité, pas tous, bien entendu. C'est pas toute l'armée, hein, parce que ici, ils ne savaient pas, hein, et je pense que les grands gradés ne savaient pas du tout. Mais à une minorité, hélas, qui a commis des actes abominables. Et pour concernant cette minorité, il serait bien que la France reconnaisse, quoi, parce qu'il y a les preuves qui sont là, et ça serait bien, parce que ça apaiserait, ça ferait du bien. Ces Algériens, ils sont apaisés, hein, ils n'ont aucune rancune. Les Algériens n'ont aucune rancune, aucun complexe, il n'y a rien. Quand on parle en Algérie, ils aiment bien la France, tout le monde aime la France, tu vois. Nos parents ne nous ont jamais parlé avec la haine, jamais, concernant la France. Mais c'est juste que, pour être juste, et faire comme dans tous les conflits qui ont eu lieu dans le monde, pour repartir sur de bonnes bases et tout, reconnaître, dire bon, écoutez, certains des nôtres ont fait des conneries, bon, allez, on s'excuse à leur place, hein, que voulez-vous que je vous dise, on va repartir sur de bonnes bases, on va réécrire vraiment un nouveau chapitre, une page blanche, moi, pour moi, c'est, tu vois, c'est à ce niveau. C'est pas genre, il faut que ceci, il faut. Non, pas du tout. C'est juste reconnaître ses torts.
C'est tout. Vanessa,
oui, ma chérie,
voilà. Tu as cité, c'est pas, on va pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a les colons qui ont été. Mmh. Bon. Ils n'ont pas choisi d'y aller.
Non, pas tous.
Je veux dire ceux qui sont en Algérie.
Ouais.
Bon, on va pas refaire l'histoire maintenant. C'était l'époque de Charles X qui voulait briller. C'est ça. Voilà. C'est pas l'histoire du coup d'éventail de baratin des livres d'histoire.
Oui.
C'est Charles X qui était en déclin ici, qui voulait briller. Point barre.
Voilà.
Allez, Edune. Alors, quand ils sont arrivés, nous, on parle des générations qui sont nées. C'est-à-dire leurs enfants.
Mais oui.
C'est leurs enfants qui n'ont rien à voir dans l'histoire de la colonisation.
Non.
Ils n'ont pas demandé à naître là-bas.
Ben non. Bon. Ils sont nés là-bas. Ils sont nés dans un pays qui était colonisé. Ils savaient pas. Ils sont nés sur la terre d'Algérie. Bon, ils étaient français, mais ils sont nés là-bas. Donc quelque part, pour eux, c'est leur pays. Ils ont raison de penser comme ça. Ces générations qui n'avaient rien à voir, comme tout à l'heure je disais, ils étaient très 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 nombreux pour la grande majorité de Français colons, ce qu'on appelle les colons, qui vivaient en Algérie, les Français d'Algérie, qui étaient juste des gens, mais vraiment très moyens. T'avais beaucoup de pauvres parmi eux, qui étaient dans des quartiers très populaires, qui ne roulaient pas sur l'or. Faut pas croire que tous les colons, c'était des riches, terriens, machin et tout. Non. Il faut remettre. Il y en avait qui se. Voilà, mais ça, il y en a partout, toujours. Bon. Mais pour la plupart, oui.
Vanessa, donc ceux qui sont nés là-bas, c'est-à-dire ceux qui sont nés. Leurs parents sont partis en colon, ok. Et leurs parents ont été installés. Ils ont été installés et c'est là qu'il y a eu les injustices de l'expropriation des terres, etc.
Voilà.
Et bon, on va pas refaire l'histoire non plus, parce que dès le départ, il fallait exterminer des gens. Il y a eu, comment il s'appelle, des gens qui sont honorés ici, je vais même pas le citer, Bujo et machin, les enfumades, etc., pour les gens qui se révoltaient.
Ouais.
Bon, il fallait installer tous ces gens-là, donc ils les ont installés en expropriant nos aïeux.
Bien sûr.
Ceux qui se révoltaient, ils étaient envoyés par bateau en Nouvelle-Calédonie.
Ouais.
Les bandous, on revient jamais.
Les Banyaï,
on va pas refaire l'histoire non plus.
Ouais.
Maintenant, ceux qui sont nés là-bas, on s'est retrouvés avec eux, par exemple, à leurs enfants, ou eux, et après leurs enfants.
Uh-huh.
On a fait l'école avec eux. Moi, personnellement, je suis née à la Casbah. On l'a quittée pendant la guerre.
Oui.
Et quand, donc, on a habité un quartier européen comme un jeu dans la soupe. Mais quand j'allais chez ma tante, on allait chez ma tante rester à côté de notre maison. Là-bas, c'était les militaires derrière les sacs de sable, etc. Mmh. Donc, c'est là qu'on voyait vraiment la guerre d'Algérie. Et bon, ailleurs, bon, enfin, j'en vois pas. Donc, tu parlais grosso modo tout à l'heure, je reprends, de repentance. Alors, ils disent, on veut que la France, on veut la repentance. Eh ben non. Moi, je me dis, cette histoire de traduction, par exemple, de l'arabe en français, vu que maintenant tout est arabisé là-bas, moi, je dirais que c'est pas demander la repentance. On peut pas demander. On va faire demain un sondage, les jeunes français, est-ce que vous voulez la repentance par rapport à l'Algérie? Ils vont dire, ben non, on n'a rien à voir là-dessus. Mais reconnaître, je reconnais que mes aïeux ont fait. Ça s'arrête là.
Non, mais il l'a fait, le président Macron, en disant que c'était un crime.
Oui.
Il y avait une reconnaissance.
Oui, il l'a fait, mais c'est pas. Tu as vu comment.
Ah oui,
comment il a été accueilli. Ici.
Oui, oui.
Après sa conférence.
C'est normal,
en Algérie.
Ben oui.
Quand il l'a.
Mais c'est pour ça, justement, pour ceux-là, pour faire taire ceux qui ont, justement, qui ont monté leur voix, etc., en disant oui, comment le crime de l'humanité. Donc, une bonne fois pour toutes, faut que ce soit écrit noir sur blanc que la France.
Voilà
demande ça. Juste aux Algériens de qui ont vécu dans leur chair à l'époque les tortures, je parle bien des tortures durant la guerre, etc., que la France, elle reconnaît. Elle demande pardon. Faut demander pardon. Que la France de l'époque, que cette France aujourd'hui, même si elle a rien à voir, mais quand même, elle porte quand même dans sa mémoire cette.
Moi, je vais même pas aller jusque là. Personnellement, on va pas aller jusque là. Parce qu'il y aura toujours, il y en aura toujours qui diront.
Mais tant pis pour eux, mais on s'en fiche de ceux-là. Ils seront, de toute façon, ceux-là, on s'en fiche d'eux. Ceux-là, on les dérange. Ceux-là, on les dérange. Ils veulent vraiment, à la limite, nous mettre tous sur un bateau, s'ils pouvaient, nous enlever la nationalité, ils le disent. Alors ceux-là, on s'en fiche de ce qu'ils pensent. Ils sont pas intéressants. C'est le gouvernement français, l'État, c'est une chose. C'est une grande institution. C'est quelque chose d'important qui dans le monde, un peu, voilà. Et ces aboyeurs là, mais on en a rien à faire de. Toute façon, on les entend de toute manière et ils seront jamais contents pour n'importe quoi. Voilà. Enfin, leur avis, si tu veux, ne, enfin, il fait pas poids. Voilà. Parce que si on commence à prendre les avis des uns et des autres, on va pas s'en sortir. Voilà. Ce qui s'est passé par exemple avec l'Allemagne et tout ça, quand les Allemands ont demandé cette repentance qui n'est pas de la même envergure je mélange pas les deux événements, mais ils ont pas demandé au peuple allemand, ils l'ont fait pour la mémoire du pays et c'est bien, c'est honorable, c'est tout à leur honneur, maintenant tout va bien. Et dans d'autres pays ça se fait aussi, c'est voilà, pour l'honneur d'un pays. Exactement. Tout simplement, ça montre la grandeur d'un pays et ça c'est juste magnifique. Voilà. Oui. Alors, on a la pause, ma petite Fatiha.
Bon, alors, c'était... Bon, je partais du journal d'Anne Frank, Le Malheur de Sophie,
oui.
On a fait l'histoire,
on a fait l'histoire. C'est comme ça.
Oui, tout à fait.
En tout cas...
Bon, on souhaite que les armes se taisent. Ben, que les armes et les bombes, ils se taisent.
Qu'on arrête de les créer, de les fabriquer, si on veut qu'elles se taisent.
Oui.
On
oui,
arrête de les fabriquer.
Encore,
parce que si on n'a pas d'armes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se battre, quoi, avec leurs poings. Ça fait pas mal, les poings.
Oui,
et d'abord, qui se bagarrent à coups de poing, qui font comme la boxe, mais qui ne fabriquent plus d'armes. Voilà. Moi, je rêve d'un monde sans armes, mon Dieu.
Vanessa, tu as de ces répliques, même dans les moments les plus difficiles, on arrive à rigoler. C'est magnifique avec toi, tu sais. Il y a des fois où je pique des fous rires incroyables.
Ah, je t'adore.
On t'adore.
Merci, ma chérie, je t'embrasse.
Allez, au revoir. Et puis, un grand bravo à Giovanni, en tout cas.
Il te remercie, il est très content, en tout cas. Merci à toi, merci de ta fidélité.
Au revoir.
Et très honnêtement, j'ai passé un super moment avec toi. Et reviens.
Merci, c'était pas prévu.
Une bouffée d'oxygène. Reviens, vraiment. Bisous, à bientôt Fatiha. 01 53 48 3000. On a Farida, on la prend juste après Farida, Mohamed, Mahni, tout ça. Donc Farida, ça va être ton tour après cette petite pause, ma chérie, d'accord? Et Mohamed de Saint-Etienne également. Puis les autres, allez, je vous attends. On vous attend, d'accord? On va, c'est la pause, c'est la pub?
Non, pas de pub.
C'est la pause prévue, comme prévu.
Voilà, comme prévu.
Alors, il y a un son, une musique, une chanson que j'ai entendu pendant le confinement. Ça m'a fait vibrer. Je sais pas, toute seule dans la voiture, ça m'a fait vibrer. Et à chaque fois que j'entendais, ça me faisait vibrer. Eh bien, ce soir, j'ai envie de vous faire vibrer. Alors, c'est en langue africaine, je sais plus de quel pays je vais vous le dire, je regarderai tout à l'heure, mais c'est juste magnifique. Je prononce le G.
Est-ce qu'on fait écouter voilà. Le début?
Non, ils vont écouter.
Surprise.
Voilà, ok, mon Giovanni. Allez, on y va. Je vous aime. Allez, à toutes. J'adore, mais alors je suis dans tous mes états. Vous pouvez pas vous imaginer. Elle a cette chanson sur moi, elle a un effet mais extraordinaire, exceptionnel. Voilà, je ne vous dis que ça. Donc il s'appelle Master KG et la chanteuse, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une chanteuse africaine. Je sais plus quel pays, faudrait que je regarde. Hein. Voilà. Et les paroles originales et les paroles de Master KG, qui est une grande star là-bas. Hein. Voilà. En français, c'est Jérusalem et ma maison. Là, le titre, c'est Jérusalem. Comme quoi, Jérusalem, c'est le berceau des trois religions. Tout est parti de là-bas. Hein. Enfin, concernant les trois religions monothéistes que nous connaissons. Tout le monde se reconnaît. Voilà, dans Jérusalem. Et bien, c'est le refrain, c'est Jérusalem et ma maison, protège-moi, marche avec moi, ne me laisse pas. Et belle, hein? Bon, bah écoutez, je vais apprendre la chorégraphie ce week-end. Faïza de Suresnes, je t'embrasse très fort, ma petite Faïza qui est à l'écoute. Faïza, tu m'apprends la chorégraphie parce qu'elle me dit qu'elle la connaît par cœur. Tu me l'apprends, d'accord? Et lundi, Giovanni, on la passe et tu me filmes, hein? Voilà. Voilà, il faudrait que vraiment...
Là, ça va être du spectacle.
Ah, ça va être quelque chose, moi je vous le dis, hein, les amis. Allez, parce que moi j'ai honte de rien. Hein. De rien du tout. Si, quand même. Mais pas de danser, pas avoir honte de danser. Danser, c'est la vie, c'est la joie, c'est l'amour, c'est tout ça. Voilà, on aime la musique, c'est pour ça qu'on a choisi ces métiers. N'est-ce pas, Giovanni?
Exactement.
Ben oui. Vive la musique, et dire qu'il y en a qui disent « La musique, c'est le chétan. c'est le diable. Pas de musique. C'est pour ça qu'ils sont tristes, ces gens.
C'est haram.
La musique, ça vous trans... Ils ont dit ça à des gamins. Des gamins. Ils leur disent... Il y en a un, je sais pas, il est sorti nulle part, le mec. Il dit, la musique, ça vous transforme en cochon et en quoi d'autre? En singe et en cochon. Ben écoutez, si la musique me transforme en singe... Mais je sais rien, en singe. En cafard, en tout ce que vous voulez. Moi, je veux danser. Voilà. Allez. N'importe quoi. Pauvre cochon et pauvre singe. Pourquoi c'est incroyable. Ces gens-là, mais ils sont tarés, hein. C'est pas possible, ils sont pas du même monde. Hein. La musique qui vous donne la joie de vivre. Quand il y a un mariage, on met de la musique. Une naissance, on met de la musique. Circoncision, on met de la musique. Je sais pas, un baptême, n'importe quoi, on met de la musique. Une bar mitzvah, on met de la musique. On met de la musique à toutes bonnes et belles occasions. Et eux, non. Eux, ils ont dit, il faut pas. Tu sais que leur mariage, ces gens-là, ben, y a pas de musique. Il y a une dame, une fois, elle m'a dit, je suis partie, elle m'a dit, je me suis sauvée. Elle était invitée, parce qu'il y en a, c'était peut-être des voisins, ou j'en sais rien, ou de la famille, parce qu'il y en a qui deviennent tarés, hein, des fois, dans la famille, dans certaines familles. Elle m'a dit, j'ai été, j'arrive. Ah non, les hommes, ils sont loin, là-bas, je sais pas où. Les femmes, voilà, il y a un rideau qui sépare les hommes et les femmes. Un grand rideau. Et les femmes, elles sont assises entre elles, comme ça. Et puis, rien, puis ça lit le Coran, après ça se tait, on dirait un mort. Alors que, c'est censé, non, mais c'est vrai. Je sais pas, quand tu, dans une église, quand on fait des prières, on lit le curé quand il fait ses homélies, tout ça, c'est quoi? C'est quand il y a le cercueil. Le curé, c'est ça. Tu vois, par exemple, dans une famille chrétienne, un jour de mariage, ils font des homélies, ils ramènent un prêtre qui fait des homélies, de ce qu'il y a dans la Bible. Non, mais attendez. Ou chez les juifs, c'est pareil, un rabbin, il va pas faire, ses prêches, voilà, il fait ça à la synagogue, tranquille, qu'à la maison, ou les soirs de Shabbat à la maison avant de manger. Mais, quand il y a des mariages, tout le monde danse. Ah non, ils veulent nous rendre tous tristes. Ils veulent nous mettre un cercueil, un faux cercueil, alors qu'il y a une mariée. Ils sont tarés. Ah non, mais c'est pas possible. Non, mais les gens, ceux qui m'écoutent et qui ont vraiment ces idées-là, mbabakoum, faut vraiment, vite, il y a des psychiatres partout. Hein. Moi, je vous donne des adresses, si vous voulez. C'est pas possible! Vive la musique, vive la danse. Rabbi nous a donné des exemples, puisque les oiseaux, ils chantent. Al-Karbi, Jamil, oui, Habil Jamil. Dieu est beau, aime la beauté. Il est l'univers, donc il est forcément beau. Et voilà. C'est incroyable, cette histoire. Ouh là 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 là, ben vous allez bien rigoler quand vous allez voir que les houris, c'était dans vos rêves. Hey, j'aimerais bien vraiment le vivre, rien que pour me régaler. Bon, arrête de rire, Giovanni. Giovanni, dis-moi de rire. Il va éclater, Giovanni. Il va éclater, moi je vous le dis. Je suis pas un clown. J'ai mangé juste un clown. On a Farida, Giovanni. Elle nous appelle de Paris. Bonsoir, Farida.
Bonsoir, madame Vanessa.
Bonsoir. Oh, Vanessa, tout court, ça me va, t'inquiète pas.
C'est vrai?
Oui.
Je peux en parler un mot en arabe?
Vas-y, un mot alors, pas deux. Hein.
Pas deux, oui, oui.
Je rigole, je plaisante. Vas-y, ma chérie.
Qu'est-ce que je dis? Dis-nous, c'est un mot, je dis, qu'est-ce que je dis? Tu m'as dit, des mots extraordinaires. Un petit ou la. Vous et la dame Fatiha.
Ah, Fatiha, formidable, hein, notre auditrice.
Oh là là!
Ouais. Non, j'ai adoré.
Moi aussi, moi j'ai pas fait des études comme vous deux, mais.
C'est pas génial. Une question d'études, tu sais, c'est les études de la vie.
De la vie, oui.
La vie, dans aucune école ou université, eh bien, on ne lit ces choses-là. Moi je te le dis. Parce que ouais. Si c'était ça, tous ceux qui sortent de l'ENA, ce seraient des spirituels, ce seraient des philosophes. Ouais. C'est pas le cas. Ouais. Il y en a qui font l'ENA, t'as vu, hein? Voilà, ah oui. Ben, ils font de la politique et ils vendent des armes. Voilà. Ouais. Voilà où ça mène, faire de grandes études.
Ah ouais, et ils disent pourquoi le Bagdad elle a été bombardée.
Si c'était que Bagdad, tout. Moi, je veux pas citer de pays parce que tout. Il n'y a pas une planète.
Tout,
un
tout.
Coin.
Oui, bien sûr,
peut-être, tu sais, c'est bizarre. Alors, il y a un truc qui est bizarre, les amis.
Ouais.
C'est bizarre parce que chez les Esquimaux, ils ne sont jamais bombardés.
Non.
Il y a comme un truc bizarre. Vous ne trouvez pas?
Bizarre.
Bah, là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, pas de pétrole, il n'y a rien, il n'y a que des phoques dans l'eau. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les phoques, un bébec et des igloos Comme quoi, tout est affaire d'intérêt, moi je vous le dis. Hein.
Ouais. Ça m'a rappelé moi aussi, hier, quand ils nous ont montré à la télévision, document ce qui s'est passé en Ukraine, la petite clinique ou maternité avec les couveuses. Ça a été aussi en Irak quand ils ont dit que Saddam, il attaquait les couveuses et tout ça. Alors que c'est une guerre.
Je vais dire une chose, moi je crois rien, je crois que mes yeux. Voilà.
Et moi je crois,
pas que ce que je vois. Donc Saddam, ce qu'ils ont dit, les couveuses, tout ça. Et puis la petite fiole, voilà. Donc tu vois ce que je veux dire. Aux quatre coins de la planète, c'est comme ça. Et puis il y a du bon et du mauvais partout.
Voilà.
Enfin, bon, on va laisser la politique de côté. Alors dis-moi, ma chérie.
Bon, écoute, Vanessa, je te souhaite que du bonheur, que du bien.
Ah, merci, ma chérie.
Que le bonheur et l'harmonie et continue comme ça. Tu nous rends heureux, plus heureux que ça. Il n'y a pas plus que ça, il n'y a pas.
Ah, je t'adore.
Tu es adorable pour tout le monde, voilà.
Merci.
On se tutoie, hein, il y a cruelty, hein.
Okay. Comment?
On se tutoie.
Mais oui, tutoie. La politique de l'émission, c'est se tutoyer. Parce qu'on est une famille sur Beurre FM, on est une famille. Ouais. Cette radio, elle a réuni tout le monde. C'est une radio qui est merveilleuse. Moi, je vous le dis, hein, vraiment, elle est extraordinaire. Souhaitez-lui longue vie à Beurre FM. Parce qu'on a une liberté d'expression, vous. D'ailleurs, vous le remarquerez avec moi, qui dit les choses crûment. On m'a jamais interdit ici de parler. On m'a jamais dit, t'en as fait trop, fallait pas. Jamais. Jamais. Ouais. Vraiment, j'ai jamais eu droit à ça. Bien au contraire. On m'encourage et tout se passe bien parce qu'on a une liberté d'expression sur cette radio qui n'existe pas ailleurs. Voilà.
Et tu es juste, tu es l'équilibre. Tu ne fais pas de l'injustice, tu es juste dans ton programme et ton émission. Tu es toujours juste.
Écoute,
pour moi, tu es comme Cléopâtre quand elle est partie vers l'Italie. Alors pour moi, pour moi, vous êtes Cléopâtre.
Oh. Ah bah c'est gentil.
Vous êtes la reine de l'Égypte à l'époque.
Ah bah tu sais qu'elle a une fille qui s'appelait Sélénée, Sélène.
Exactement.
Mm-hmm. Et qui s'est marié avec Juba II. Et qui, et qui sont natifs, enfin, ils sont, elle, quand sa fille, voilà, s'est mariée avec Juba II qui était à Cherchel, qui était roi numide, etc., descendant de Juba I.
Ouais.
Et les Cherchellois, parce que Juba II de Cherchel, tu vois, les Cherchellois, ils sont fiers, ils te disent tous, les Cherchelloises, elles te disent, nous, on est descendantes de Cléopâtre Sélène, la fille de Cléopâtre d'Égypte.
Et c'est vrai.
Ils sont fiers de ça.
C'est pas n'importe qui Cherchel, hein. Les gens, ils connaissent pas la vie.
Ben, faut chercher, vous allez voir, les Cherchellois. Vous allez comprendre.
Plein de ruines romaines.
Oui, chargé d'histoire.
C'est magnifique, Cherchel. Ben, voilà, comme vous.
Ah, Issa Khéavnès, merci ma chérie. Je t'embrasse très fort en tout cas.
Grâce à votre maman aussi. Vous l'embrassez parce qu'elle a une bonne âme.
Ah, c'est gentil. Merci.
Et positif. Et dernièrement, vous avez parlé pour le 8 mars, pour les femmes.
Oui.
Vous avez évoqué les icônes algériennes. Ah, là, c'est les meilleurs dans le monde. Ce sont nos sœurs, nos frères, nos mères,
les
nos
femmes,
sœurs,
mon Dieu. Parce qu'on a tendance à oublier toutes ces femmes, parce que pendant la guerre, dans toutes les guerres, moi je parle de la guerre d'Algérie que je connais bien, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui ont contribué. Et si l'indépendance est arrivée, c'est beaucoup aussi grâce aux femmes qui ont contribué, qui ont battu, se sont battues, les Hassiba Ben Wali, Zohra Drif, Jamila Bouhirad et d'autres, à Alger, la Casbah, etc., Darbo et tout ça, c'est des femmes vraiment, elles étaient condamnées à mort, elles ont été torturées, violées, certaines ont été tuées et tout ça. Et aussi, on n'oublie pas les femmes des montagnes, Tadjbel, dans toutes les montagnes d'Algérie, hein, Kabylie, partout, qui elles recevaient elles faisaient à manger pour les moudjahidines la nuit, et elles leur lavaient le linge, et le lendemain, quand les soldats, les militaires français arrivaient, parce que il y en avait qui trahissaient, hein, il y a toujours des traîtres. Donc il y en a qui trahissaient en disant, ah oui, fait avec Dachara, ils ont reçu des moudjahidines. Donc ils ramenaient les militaires qui venaient, qui faisaient la razzia, et ces femmes, les pauvres, on les obligeait à parler, elles parlaient pas, elles étaient, violentées, torturées. Donc, Manin Saouch, les femmes, Tadjbel, les femmes des montagnes en Algérie. Ah, voilà, les montagnardes, vraiment, magnifiques.
Fière toutes des femmes d'Algériens, qu'elles soient dans la montagne, dans les villes,
voilà, pareil.
Elles sont magnifiques. C'est... Comme elle a dit, une Française de Suche en prison, il y avait un document qui est passé en 63 ou en 64, ils ont fait un document en italien qui a passé le micro à cette dame. Elle a dit comment elles étaient belles, ces Algériens. C'est pas vrai, elle a dit. C'est des femmes belles et intelligentes et humbles. Et avaient la cause exacte
pour
se défendre.
Mais oui,
l'honneur et la dignité de l'humain.
Mais oui, elles ont fait énormément. Et on devrait aujourd'hui avoir beaucoup plus de reconnaissance pour les femmes en Algérie et pour leur rendre hommage. Moi, vraiment, il y a quelque chose parce que j'essaie toujours d'être juste, hein, je dis pas, il y a des choses qui ne vont pas. Eh bien, en Algérie, tant que cette loi de l'infamie, ce qu'on appelle la loi de la famille, tu vois, pour moi, c'est l'infamie, comme beaucoup de femmes, on l'appelle comme ça, de l'infamie. Eh bien, tant que cette loi n'est pas abrogée, il n'y a pas de reconnaissance pour la femme algérienne qui a combattu Mskina dans sa chair, qui vraiment, elle était sur tous les fronts. Eh bien, ce code-là, eh bien, ne l'honore pas. Et ce code-là, eh bien, est avilissant. C'est une honte, ce code de la famille. Ils ont du mal à le retirer. T'bédila. Et dans ce code, il y a le droit de la polygamie. C'est grave.
Donc,
la polygamie, eh bien, ça, c'est très grave. C'est une injure. C'est craché sur les tombes de ces femmes qui se sont battues pour l'indépendance. Mais hachmouche. Voilà. Ouais. Ce code, il faut l'abroger. Ça, et plus le tuteur pour se marier et d'autres encore qui sont encore en application. C'est une honte. Voilà. Et aussi le fait de pouvoir répudier une femme. Enfin, bref. Non, il y a des choses qui ne vont pas. Dans ce code, il faut vraiment l'abroger dans son entier. Il faut l'égalité entre les hommes et les femmes en Algérie. Voilà, moi je le dis. Parce que dans le pays, tout n'est pas noir. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites. Il y a des universités, on a avancé, etc. Il y a de bons côtés. Mais il y a ce code qui n'honore pas le pays à cause de... parce qu'on oublie. On a oublié que ces femmes... voilà. Alors tous les 8 mars, on espère. On se dit peut-être à le 8 mars... Peut-être ils diront l'appel, peut-être ils vont dire tiens, voilà, on va l'abroger. Non, de gouvernement en gouvernement, ils passent, mais le code est toujours en place. Qu'est-ce qu'elles font? Moi, je sais pas. Enfin, les femmes là-bas, faut qu'elles le réclament. Et il y a des femmes juristes, il y a beaucoup de femmes magistrates. Faut qu'elles réclament, vraiment. Il y a aucune raison. Bourguiba, il a fait quelque chose de très bien concernant les femmes. Yate Sahal, Yarhmou Salé, pour les Tunisiennes. Bravo, 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 Bourguiba. Et nous, on attend en Algérie, alors que nous, en Algérie, on a eu cette révolution, Denia, où les femmes, les Hassiba et tout, mon Dieu, et les Djamila, enfin. Voilà, ma chérie, tu vois pourquoi on est révoltés? Ben, on est révoltés, de temps en temps.
Il y a de quoi.
Je t'embrasse fort. Oui, pardon, tu voulais dire quelque chose. Pardon.
La suite continue, hein. Les femmes, elles sont là, elles sont toujours là. Hein.
Elles sont debout, les Algériennes, mais elles encore. Mais bon, le pays a bien avancé parce qu'elles font des études, quand même. Chose qu'elle faisait pas avant. Il y a des universités partout, il y a des médecins partout, femmes dans les voilà magistratures, tout ça. Mais ce qui manque, c'est ça, le code à dos, tatbedi là. Voilà. Je t'embrasse, ma chérie. Bisous.
Ok, moi aussi.
À bientôt, aussi, Farida. Très merci. Gentil. C'est gentil. À bientôt. Au revoir. 01 53 48 3000. On a Yako qui nous appelle de Bourges. Bonsoir, Yako.
Bonsoir, Vanessa.
Ah, ça me fait plaisir. Yako de retour.
Oui, vous allez bien?
Oui, et toi? Est-ce que t'as dansé?
J'ai beaucoup chanté, mais j'ai pas beaucoup dansé.
Ah, mais t'as entendu la chanson? Elle était belle quand même, hein?
Exactement, oui.
Ah oui, toi, t'es d'où d'Afrique déjà? Tu m'avais dit l'autre jour. J'ai oublié.
Du Burkina Faso.
Du Burkina, oui. Alors, je sais pas d'où il est, le chanteur, là. Faut que je regarde. Est-ce que tu peux regarder Giovanni pour moi, s'il te plaît? Parce que vraiment, est-ce que tu comprends? Parce que bon, il est peut-être pas de chez toi, tu peux pas comprendre les paroles.
Non, je suis dehors, mais j'écoutais qu'est-ce que vous parlez tout à l'heure et oui. Ça me fait plaisir, c'est pourquoi j'ai essayé d'appeler pour encore vous faire un petit coucou.
Eh ben, ça me fait vraiment plaisir, Yako, vraiment. Mais toi, oui, t'es un artiste déjà, c'est vrai, t'es un artiste.
Exactement, je chante bien en arabe, en anglais, en français.
Ah ouais. Il faudrait que tu me fasses écouter quelque chose de ce que tu chantes. Faut vraiment, hein. Parce que j'ai cherché, j'ai pas vraiment trouvé, hein.
Non, mais je viens d'envoyer sur votre numéro, on peut envoyer un texto ou quelque chose comme ça.
Ah non, tu peux pas. Sur le numéro de la radio, tu peux pas.
Ah ouais, mais il y a des gens qui envoient un petit coucou, souvent.
Ben écoute, ça part dans les ondes. Ça part dans les ondes. On les reçoit jamais.
Mais de toute façon.
Alors, est-ce que tu as un Facebook? T'as quelque chose?
Oui, j'ai Facebook.
C'est quoi ton Facebook? Moi, je vais aller sur ton Facebook parce que je veux voir ce que tu chantes. C'est quoi ton Facebook? Vas-y, dis-moi.
Freedom International.
Alors, Freedom, F R 2 E E.
Oui, international.
D-O-M, international.
Oui,
ouais.
Oui, @gmail.com.
Non, mais ça, c'est ton adresse mail.
Oui, ça, c'est mon adresse mail.
Oui. Et Facebook. Oui, et Facebook.
Facebook aussi. Oui.
Facebook, tu t'appelles.
Nelson Mandela.
C'est quoi sur Facebook ton compte? C'est quoi le nom?
Freedom International.
Ah bon, ben je vais voir alors. Eh bien, ouais. Vas-y, demande-moi un ami. Vanessa, tu tapes Vanessa, Beurre FM, je suis partout là sur.
Ça marche. Vanessa, j'aimerais partager plein de choses avec vous.
Eh bien, moi j'aimerais aussi, vraiment.
Et faire plaisir à tous les auditeurs qui vous écoutent, qui vous donnent de bons conseils. J'ai beaucoup aimé ces radios parce qu'il y a. Il y a plein d'amour.
C'est vrai qu'il y a plein d'amour. C'est une radio.
Et tous ces gens qui osent chercher de la vérité, comment ça se passe, pourquoi d'autres ils sont au nord, d'autres ils sont. Voilà, ça me fait plaisir. Je suis sensible de tout ce que vous parlez.
Ben, ça me fait plaisir parce que tu dis des choses qui sont vraies, qui sont justes. Nos auditeurs, parce que je parle des auditeurs, c'est eux qui font l'émission, hein. Eh bien, nos auditeurs parlent vrai. Tu vois, on leur donne la possibilité de parler vrai. On ouvre l'antenne.
Que des amours.
Mais oui.
Que des amours.
Et ce qu'ils disent, Yako, ils ne peuvent pas le dire ailleurs. Tu comprends? Parce qu'on ne leur. C'est pas qu'ils peuvent pas. On leur donne pas la possibilité. Tu comprends?
Exactement.
C'est ça.
Et c'est pour ça que j'ai dit, je me suis inscrit, à Freedom International.
Oh, c'est bien.
Ça veut dire, chacun de nous, on a un part des choses à participer dans la vie.
Mais bien sûr. Mais oui, les Africains, voilà. Il faut qu'on fasse briller ce continent, hein. Ce continent, il brille par ses richesses, ses intelligences. Ça bouillonne. Mais il faut qu'on se montre.
Mais l'Afrique, c'est un continent qui.
C'est le berceau de l'humanité.
Qui va réallumer un jour.
Ben oui. Mais c'est à vous, hein. C'est à vous.
Oui. J'aime bien les Européens, j'aime bien les Asiatiques, j'aime bien les Africains. Mais il faut qu'on soit tous ensemble.
Mais oui, mais c'est ça. C'est ça.
Voilà, la religion nous sépare quelque part, mais il n'y a pas histoire de dire moi je suis musulman, musulman de père ou mère et j'aime la religion musulmane, mais je déteste jamais un catholique ou un chrétien ou quelque chose.
Il faut prendre le meilleur des religions.
Exactement, c'est ce qui, c'est la vie.
Ben
c'est
oui.
ça la freedom.
Freedom, ouais, moi je suis freedom, moi. Moi, ma religion, t'as compris ma religion, ce que c'est, d'accord? Moi, je
vous
pratique.
Vous avez dit la fois dernière,
l'amour.
Vous avez dit la fois dernière, universel. Mais je ne suis pas là. Je veux que vous jouiez de la musique. Et ça, ça m'a tellement fait beaucoup de plaisir.
C'est-à-dire, j'ai pas entendu.
Oui, la fois dernière, vous avez parlé sur BRFM.
Oui.
Les jours que moi je suis pas là, les jours que je pars, je veux que vous jouiez de la musique.
Ah, le jour de ma mort quand je pars. Alors j'ai dit oui, je veux pas de larmes hein, parce que ça suffit hein. Non, ça
exactement,
va.
Exactement,
hein.
Vous avez.
Voilà.
Dit ça,
d'abord on n'est pas aimé de tous, voilà. Et puis en plus je veux pas de tristesse parce que la mort n'existe pas pour moi. Moi pour moi je veux, on va dans une autre le plus loin possible hein, mais on va dans
exactement,
une autre dimension.
Enfin, une autre
dimension.
Étape.
Voilà une autre étape. Donc s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, ne venez pas me verser des larmes, laissez-moi tranquille, allégez-moi. Moi le jour où je meurs, je vous l'ai dit à mon entourage, hein, y en a qui m'ont dit ah non arrête. J'ai dit non mais je suis sérieuse. Attention, c'est ma dernière volonté. Exactement. Le jour de ma mort, de mon enterrement, voilà, funérailles, tout ce que vous voulez, enterrez-moi, brûlez-moi, j'en ai rien à faire vraiment. Je vais dans une autre dimension. Alors ça je m'en fiche, hein, qu'on fasse de moi ce qu'on veut. Eh bien, ce que je veux, une seule chose.
Oui.
De la musique, voilà. Qu'on me mette,
qu'on
me mette ça. En ce moment, j'aime bien cette musique, là, celle que j'ai passée, la Jérusalem. On met ça, on met du Chepralède, on met ce qu'on veut, mais je veux de la musique, voilà. Pas de larmes, oh là là, pas de larmes et pas de prière, là. Non, pas de prière, laissez-moi tranquille, là, bébé,
con. D'accord. Et je sais pas, c'est qui va
aller
pas
de prière. La prière, c'est la musique, la chanson.
Mais je souhaite que ça soit que du bonheur, que ça soit, que tout le monde accepte ces propositions.
Voilà, exactement. Voilà. Et ben, ils ont intérêt à le faire, hein, parce que je l'aurais laissé vraiment, hein, à tous, hein. J'ai dit, je veux ça.
Et ça va le faire, ça va le faire.
Ah ben, je connais quelqu'un qui me respecte vraiment, qui respecte tellement mes volontés, qui se respecte tout court, qui respecte l'humanité et tout ça, tellement intelligent, une personne fiable. Voilà. Oui. Et je sais que cette personne, elle va réaliser, en tous les cas, mes volontés. Voilà.
Mais nous tous, on va réaliser ça.
Il faut le faire, toi aussi.
Si on est là, on va réaliser, on va venir.
Ah ben, vous venez, vous dansez. Voilà, c'est tout. Je vous demande
avec,
de danser.
Avec les roses, avec le parfait, avec le bourreur.
Voilà. Ah oui, l'encens. J'aime bien le prohol. Oui, j'adore l'encens. Ça, l'encens,
ça
je veux bien.
Bien. Ça fait bien.
Bougie, l'encens, ça joue bien.
Ce que vous faites, ça fait bien ce que vous faites. Et franchement, j'ai beaucoup de choses à partager. 12 étapes pour vous faire plaisir.
C'est trop gentil. En tout cas, envoie-moi tout ça parce que je cherche là, sur Facebook, Freedom International.
Ouais.
Je te trouve pas, ça m'énerve.
Mais bon, ouais, je vais vous chercher, Inch'Allah. Je vais vous chercher.
Tu me trouves tout ça ?
T'inquiète pas. Oui, je vais vous chercher.
Ah, ben oui, parce que je veux savoir ce que tu chantes. Tout ça. Moi, je suis très curieuse. Hein, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire, hein, vraiment.
Je sens bien. Je sens un mode religieux. Et je sens aussi.
Ah, c'est bien.
Un bon conseil.
Ah, ouais.
Ouais, je sens.
C'est point .org non ?
Hein ?
Point .org non ?
Je suis bien en soul, je suis bien en jazz.
Ah, tu chantes tout, toi. Mais toi, t'as tout compris de la vie.
Oui, ça fait... Ma vie, elle est toujours dehors. Elle est toujours... Depuis 13 ans, je suis dehors.
Bah ouais. Bah écoute, reste comme tu es. Ne bouge pas. T'as tout compris.
J'aimerais bien. Reste jusqu'à la fin.
Ah bah, tu resteras comme ça. Jusqu'au bout. Je te fais de gros bisous, Yako.
Merci, Vanessa.
Merci beaucoup
plein,
à toi.
Plein, beaucoup d'étoiles.
C'est gentil.
Fidélité, beaucoup d'amour et beaucoup de succès, beaucoup de
merci
longue vie.
À toi aussi. Et envoie-moi sur vanessa@beurrefm.net. Tu m'envoies tout ça,
bien
Lilian
sûr, bien sûr.
Je compte sur toi. Hein. Gros bisous, bonne soirée, mon Yako. À bientôt.
Bisous à vous.
Merci, bisous. Il est adorable, Yako. Ah, moi, je l'adore. Quand il parle, il a le sourire. On voit qu'il a la joie de vivre. Il a une profondeur, quoi. Moi, c'est tout ce que j'aime. 01 53 48. Allez, on se réveille. On se réveille. Ça s'endort. On a Mané, qui nous appelle de Vitry. Les autres, ils dorment ce soir. Je sais pas ce qui leur arrive. Bonsoir, Mané, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Qu'est-ce qu'il a ? Il nous entend pas ? Oh, bah alors. Bah c'est la fin alors, hein ? On va rendre l'antenne, hein ? Non ? Bah écoute, on n'arrive pas à l'avoir, Mani. On prend Nanou ? Oui. Mani ? Allô, Mani ?
Allô ?
Non. Ah,
allô.
C'est Nanou. Bah, je ne sais pas ce qui se passe au standard parce que les appels se croisent là soudainement.
Il y a un bug de standard.
Il y a un bug de standard là, je ne sais pas ce qui se passe.
Allô ?
Bon, on est là allô jusqu'à minuit, les enfants. Allez, allez, allez.
Alors, on a Mani, je crois.
Oui, bonjour.
Mani ?
Oui, comment ça va ?
Ah, ben ça va et toi ?
La baisse.
Eh ben écoute, la baisse, je sais pas, on a eu un petit bug là. Ben écoute, tout la va baisse, bien. Et toi ?
C'est le baisse-baisse. La baisse, c'est le baisse-baisse.
Le baisse-baisse, c'est bon le baisse-baisse. C'est fenouil, hein. C'est très bon.
La baisse, ouais, ça va, tranquille. J'ai toujours à voir, hein.
Comment ?
Vous êtes très prise, hein.
Attends, je t'entends pas très bien. Ben écoute, dur à voir, c'est normal. C'est la rançon du succès.
Ah oui. Hein.
Ouais. Alors rapidement, parce qu'il nous reste une minute. Je suis désolée pour les personnes qui sont en attente. Vraiment, parce qu'il y en a qui appellent là, en ce moment. Désolée, c'est la fin de l'émission. Voilà. Voilà, je suis vraiment désolée. Je peux pas vous prendre ce soir. Revenez lundi. Mani, je te laisse terminer. Vas-y.
D'accord. Bah, j'ai pas. Je vais prendre des nouvelles de vous, hein, voir comment vous allez.
Bah écoute, si t'appelles pour ça, je sais pas, tu l'entends à l'antenne, tout va bien, hein, qu'est-ce que je te dise. J'ai fait des pâtes ce soir. Des pâtes avec du veau, c'était très bon.
Ouais.
Ouais, des petits bouts de veau comme ça, enfin.
Ouais, j'aurais plein de questions à poser à Samir, mais c'est dur de l'avoir.
Bah écoute, posez-moi, moi, si j'ai la possibilité. Mais alors moi,
ouais.
Ça sera pas les mêmes réponses. C'était quoi que tu voulais savoir, par exemple ?
Bah, j'avais. On m'avait dit dans les Anciens Testaments.
Mmh.
Que le Abraham, c'est d'Abraham. Il était d'origine du côté de son père asiatique et sa mère était noire africaine.
Bah écoute, je l'ai pas rencontré, je sais pas. Ça devait être un métis, c'est bien le métis. Moi j'adore, je suis pour le métissage. Voilà. Alors moi ça me parle pas tout ça parce que je suis pas remontée si loin dans le temps. Déjà avec mes congénères j'ai du mal. Donc j'essaye de faire de sorte à ce que ceux qui sont de mon époque vivent le plus tranquillement, paisiblement possible. Alors le reste dans le temps, je sais pas. Mani, je te fais de gros bisous, on arrive à la fin parce que sinon Giovanni va s'énerver. Je t'embrasse, à bientôt Mani. Et puis Nanou aussi et les autres aussi, revenez lundi.
Énervé.
Ben, tu vas t'énerver parce que
tu
là,
sais ce qui
faut que tu rendes l'antenne.
Tu sais ce qui m'énerve ?
Oui.
C'est que tu parles de tes dernières volontés.
Ah bon ? Ben écoute, faut bien qu'un jour je parte, non ? Je vais pas rester toute ma vie, toute ma vie, oui. Mais je vais pas rester.
Mais on a encore longtemps devant nous.
Oui, mais faut que ça arrive un jour. Si ça arrive du jour au lendemain, il y a des enfants qui partent. Tu sais, dans ce monde, on sait pas. Du jour au lendemain, on sait pas, Giovanni. On sait pas si on a beaucoup de temps ou pas. On souhaite. Moi, je souhaiterais que les gens vivent 120 ans, que tu sais, je te dise. Moi, j'ai envie de vivre longtemps. Mais on ne sait pas. Comme on sait pas, il faut toujours prévoir.
C'est vrai.
Pour pas laisser derrière soi, les autres dans l'embarras, dans le désarroi. Bon, je parle pas de ce que j'ai dit moi, mais je parle de en général, parce qu'il y a des personnes qui sont parties sans prévoir, parce qu'il faut toujours penser qu'un jour on va partir. Et des gens qui veulent pas y penser, mais si, c'est obligé. Même Denis le disent. Parce que pourquoi ? Parce que comme ça, on se prépare pour laisser derrière nous un terrain propre, neutre, etc. Que tout soit en place pour pas que les enfants, l'entourage soient perdus. Donc pour pas qu'ils soient perdus, il faut un petit peu. Être organisé.
Oui, autre chose.
Être organisé, pas organisé, ça mort, mais être organisé. Voilà.
Il reste une minute. La chanteuse de Jérusalem vient d'Afrique du Sud.
Ah, super. Voilà. Génial, d'Afrique du Sud.
Et sur ce, bon week-end.
Bon week-end à toi aussi, mon Giovanni. Repose-toi bien. Il a le sourire dans la voix.
Et à demain pour mes auditeurs, 6h.
Voilà, sa voix va mieux déjà. Et demain, 6h, Giovanni, pour la matinale. D'accord, week-end. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi, chers amis, à partir de 11h pour vos petites annonces et le soir, bien sûr, confidence. Et là, tout de suite, eh bien, c'est Philippe Robichon, la Rediff, AVS et ses invités. Très intéressante émission, vous allez voir. Allez, bon week-end, à lundi, je vous aime, bye.
Retrouvez Confidence tous les jours de 22h à minuit et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.